Vous allez entendre le message, un vrai signe qui est négligé, prêché par notre précieux frère et prophète William Marion Branham, le 12 novembre 1961. Nous sommes assemblés ce matin dans le nom du Seigneur. Et après avoir beaucoup prié, aussi ce matin, je ne me suis pas levé tôt, j'ai mis du temps à me lever. Et je suppose que tout le monde sait pourquoi maintenant. Je suis rentré à la maison l'autre matin ou l'autre nuit, et mon voisin m'attendait debout dans la cour, lui et sa petite fille. Son épouse est infirmière à la maternité de l'hôpital. Toujours est-il qu'il tenait un bâton dans sa main, à peu près de cette longueur-là, avec une petite citation écrite dessus, du ruban, et une petite chose qui disait « Grand-père Branham ». Depuis, je crois, environ 3h43 ou 4h43, le 11 octobre. Puis, entre de grandes parenthèses et au bas, ça disait « Vous êtes plus vieux que vous ne le pensez ». J'ai donc légalement le droit de me reposer un peu plus longtemps le matin, n'est-ce pas, frère Wright, quand on devient un grand-papa? Aussi, je pense que ça peut me servir un peu d'excuse, Sir Kidd, le fait que je n'étais pas encore levé lorsque vous êtes passé pour faire un tour de l'Ohio. Je me sens vraiment plus vieux de 10 ans, malgré tout, après ça. Mais vous savez tous que j'ai un petit-fils là-bas d'environ 7 ou 8 livres, quelque chose comme ça, le petit enfant le plus laid que je n'ai jamais vu. Il a dit, il ressemble à son grand-père. Et je pouvais voir exactement où il s'en allait avec ça, où Billy s'en allait avec ça. Alors, la nuit dernière, en revenant de la salle, après avoir fait mes appels, j'ai rencontré un groupe de bons amis de la Géorgie et des alentours, et nous étions tous là à regarder les petits-enfants. Et ils sont mignons. Maintenant, ils sont juste... J'ai toujours eu une impression comme, « Billy, tu as peur de les briser, tu sais, ils sont si petits. » Et je crois que c'est Sœur Beeler qui disait, « J'avais l'habitude de penser... » Elle avait l'habitude de penser cela, elle aussi, mais plus tard, elle a découvert qu'ils ne se brisent pas si facilement. Donc, je pense que c'est probablement juste. Hier après-midi, j'ai eu l'opportunité d'aller chez l'un de nos sœurs, notre sœur qui est ici à l'église, à la maison de sa fille, et je crois qu'elle aussi est ici à l'église. Et là, ils avaient organisé un petit dîner d'anniversaire pour Frère Neville. Et hier soir, il a passé une autre étape importante. Aussi, nous voulons souhaiter à Frère Neville un vrai joyeux anniversaire, chacun d'entre nous, parce que c'est un très bon frère. Et bien sûr, il vient juste de passer 25 ans, un tout petit peu, comme moi. Et donc, nous l'avons passé pour la deuxième fois. Voilà. Maintenant, ça commence à faire vieil homme quand on passe cette étape pour la deuxième fois, vous savez. Je me souviens du matin où Frankie Weber est venu ici. C'était notre voisin d'à côté ici. Sa fille vit là maintenant. Il est en Floride. Et Frankie et moi sommes allés à l'école ensemble. Et Frankie avait fait un don à l'occasion de son anniversaire. Je prêchais depuis environ 3 ou 4 ans. Et j'avais conduit Frankie au Seigneur Jésus. Et il a déposé 25 sous. Je crois que j'avais 22 ans. Je me suis dit, ne me dites pas que Frankie Weber a 25 ans. Oh, je n'ai pas hâte d'avoir 25 ans. Et maintenant, je suis bien parti pour en empiler 3 fois comme ça très bientôt. Le temps finit par passer rapidement. Quand je regarde par là et que je vois frère et sœur Kidd, âgés de 80 ans et quelques, et toujours aussi fort, je me dis, Seigneur Jésus, pardonne-moi de me plaindre à 52 ans. Et eux, tu as 80 ans et frère Kidd a 80 ans. 81 ans, très bien ça. 81. Ils sont toujours dans le ministère, je vous le dis. Cela nous donne du courage, n'est-ce pas? Certainement, le Seigneur est vraiment bon envers nous. Maintenant, il n'y a qu'une mauvaise chose que je redoute. On a une réunion qui ne dure qu'une matinée, et c'est horrible. On dirait que c'est une chose vraiment honteuse à dire, mais j'ai tellement d'amis qui viennent de tellement loin pour assister au service. Je ne vois pas les Evans ici, mais ils sont là quelque part, je suppose. Ils n'en manquent jamais un. Et vous savez combien de milles ils conduisent tous les dimanches pour entendre la prédication? 13 000 milles. Ils ne peuvent faire le voyage pour moins de 70 $ par semaine pour aller à l'église, c'est vrai, c'est ce que coûte pour venir ici avec toute la famille et tout. Et là, non seulement cela, mais voici un petit frère qui vient de l'Alabama et qui conduit à peu près la même distance à chaque semaine. Oh là là, frère Wilt. West. Il m'a l'air d'un garçon. Il est père d'une poignée d'enfants. Mais il me revient toujours à la mémoire. Il a l'air si jeune, lui et son épouse, frère West. Frère et sœur Palmer sont assis à l'arrière là-bas. Ils viennent de Macon, en Géorgie. Et sœur Ungren, ils sont ici. Ils viennent de Memphis, au Tennessee. Sont-ils ici ce matin? Habituellement, ils sont là. Sœur Ungren et le groupe de Memphis dans le Tennessee, oui, ils sont là, tout au fond. Et il y en a d'autres, je ne peux... Ils sont juste trop nombreux pour tous les nommer. Certains d'entre eux viennent tout en bas dans le sud du Kentucky, certains viennent du plus haut autour de Chicago, d'autres viennent de Chicago, d'au-dessus de Chicago et des alentours. Dimanche, j'ai cru comprendre qu'il y avait ici un homme ici qui avait fait tout le chemin depuis la Californie et qu'il est resté très peu de temps. Il voulait me voir. Bien sûr, après la réunion, j'étais pressé et l'homme est reparti sans que je ne le voie. Un autre est venu de quelque part en Illinois. Si cet homme est là ce matin, c'était les plus belles et les plus délicieuses pommes que je n'ai jamais mangées. Il m'a apporté une grosse boîte de pommes. Et l'un des frères de la Géorgie, je crois que c'est ça, ou quelque part, a apporté un beau gros paquet de noix de pécan, à peu près gros comme ça, dans un emballage de papier. Et oh, je ne peux vraiment le manger. Pour le moment, bien sûr, je ne mange pas d'aliments vraiment agréables ce jour-ci. J'en ai pas mangé depuis le décès de ma mère. Je cherche le Seigneur pour qu'il me donne une nouvelle vision. Je ne mange que des choses tendres en prenant les bouchées les plus petites possibles. J'ai perdu 20 livres. Ce qui est... Mais je ne jeûne pas. Ça, c'est juste de faire ça. Ce n'est pas une offrande au Seigneur. Vous voulez donner au Seigneur le meilleur de vous-même. J'ai aperçu frère Sumner et les autres à l'arrière. Il y en a tellement. Pareil, pour dimanche dernier, je mentionnais les gens qui ont fait des arrangements pour maman et toutes ces choses. Et une véritable sœur loyale était là et j'ai oublié de nommer le nom de cette femme. Maintenant, si elle est ici ce matin, je m'excuse. L'une d'elles était sœur Beeler et les autres étaient sœurs et frères Steffi et tellement d'autres. Vous me connaissez tous assez bien pour savoir que je ne fais pas exprès d'oublier un nom ou une personne. Combien ils ont tous été loyaux. Et parfois, alors je me suis ici en avant, je vais commencer à mentionner quelqu'un qui me vient à l'esprit. Et pour ça, je veux dire, le groupe entier, tout le monde, vous voyez, c'est tellement gentil. Et puis, tout le monde a été aimable et gentil avec nous. Et nous l'apprécions vraiment. Et là, ce matin, nous allons essayer d'approcher la parole de Dieu à nouveau. Maintenant, j'aimerais faire cette déclaration pour que ce soit vraiment clair. Je ne viens à aucune réunion simplement pour être vu. Je ne viens pas là juste pour dire, eh bien, j'aimerais peut-être prier le Seigneur pour qu'il me donne un message afin que les gens se sentent bien et qu'ils poussent des cris. Nous avons eu bien assez de cela, et nous l'apprécions, c'est bien. Vous voyez, c'est merveilleux, vous voyez? Mais ce que je veux être certain, c'est, Seigneur, que ce soit toi qui dirige mes pensées sur quelque chose qui va aider les gens et qui les rapprochera de Dieu. Ça va faire quelque chose pour eux. Non pas tant de les élever spirituellement, mais de les élever en les instruisant et en les exhortant selon Dieu, afin qu'ils sachent comment se tenir quand l'ennemi vient. Je parlais avec une sœur qui était en visite ici cette semaine, sœur Palmer. Elle a dit qu'elle voulait savoir comment j'arrive à vivre dans ce pays. Ce qui se passe en fait, c'est que vous venez simplement ici et en effet, chaque fois que j'arrive dans la vallée, je tombe malade aussitôt. C'est tout simplement malsain dans la vallée ici, nous savons cela. Mais Dieu a beaucoup d'enfants ici et aussi un de ces jours, je cherche le Seigneur maintenant afin de trouver un véritable message venant tout droit de Dieu, voyez? Et moi, avec l'aide de Dieu, mon but est de tenir ferme jusqu'à ce qu'il vienne, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il me déclare quelque chose, car je pense qu'il devrait y avoir, il y a quelque chose qui va bientôt arriver par ici. Et je veux savoir ce que c'est. Je veux l'apprendre directement de Dieu afin que je puisse dire que c'est ainsi dit le Seigneur, voyez? Et alors, vous pouvez, vous, les gens, vous saurez alors que ce n'est pas moi. Alors, je veux essayer de m'en tenir à ça ainsi ou d'entendre de lui premièrement. Parce que s'il place ses paroles dans une personne, eh bien, alors, ce n'est plus la personne, c'est lui. Ainsi, si l'homme le dit de lui-même, cela ne vaudra rien de toute façon. Mais si lui, la parole du Seigneur, est dans l'homme, il se manifestera et alors ce sera exactement correct. C'est la commission qui nous a été donnée dans la Bible vers le 20e chapitre de Deutéronome. Je crois qu'il a dit, oui, observez, et si quelqu'un parle au nom du Seigneur et que cela n'arrive pas, alors ne prêtez aucune attention à cette personne, voyez. Mais s'il parle et que cela arrive, alors mieux vaut l'entendre, voyez, parce que cela vient de Dieu. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Il a son programme régulier exposé ici dans la Bible. Nous savons comment lire cela. Mais il y a certaines choses qui ont trait à l'Église, au temps et aux choses, et qu'il n'a pas fait écrire ici dans la Bible. C'est pourquoi il place sa voix dans une personne et il la prononce pour lui. Vous voyez, et il la proclame. Alors, le moyen de juger cette personne est de voir si les choses se produisent comme ils l'ont dit, que ça arriverait. Et alors, si ça arrive et que les choses continuent d'arriver de cette façon, eh bien, nous savons alors que ça vient du Seigneur. Alors, nous avons confiance alors pour nous préparer à la venue prochaine de la chose qui a été annoncée. Je vais lire à deux ou trois endroits dans les Écritures ce matin, et je vais lire premièrement un extrait du livre de l'Exode. Et je crois que c'est autour du 4e chapitre de l'Exode, pour débuter. Et maintenant, je pourrais vous annoncer, pendant que vous vous apprêtez à lire ces Écritures, je pourrais annoncer ce dont je veux vous parler, le sujet que le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler ce matin. Je ne sais pas ce qu'il fera de cela pour les gens. Peut-être que ce sera pour une personne ici, peut-être que ce sera pour quelqu'un dans le monde des bandes ou quelque part ailleurs, mais je veux annoncer ce matin. Je crois que dimanche matin dernier, j'ai prêché sur un vrai témoin. Et ce dimanche matin, le Seigneur voulant, je veux prêcher sur un vrai signe qui est négligé. Frère Palmer me disait hier soir que dimanche matin dernier, j'ai parlé sur le sujet, ou bien j'ai dit que j'allais parler ce dimanche sur les quatre jonctions de l'Église. Et quand je suis rentré la nuit dernière, d'habitude, je note cela. Je ne sais pas si vous le faites ou non, mais j'ai tellement de choses dont j'essaie de me souvenir. Je reçois quelque chose et je dois l'inscrire sur un morceau de papier, vous voyez. Et je suis allé voir ça et ce que je voulais dire par là, ce n'était pas exactement les quatre jonctions. Je l'ai vraiment dit de cette façon, mais ce que je voulais dire, c'est les quatre formes du gouvernement de l'Église. Et pour ce faire, il me faut trouver beaucoup de renseignements historiques puis les placer ensemble. Aussi, peut-être que la prochaine fois, j'aurai cela, mais il me faut un peu plus de temps que j'ai en ce moment et du temps d'étude pour trouver ces renseignements parce que vous devez revenir en arrière pour obtenir des dates et ainsi de suite. Parce que vous comprenez tous que c'est partout. Nous voulons être absolument certains de ces choses avant de les dire. Elles doivent être correctes parce que nous tenons ici occupant le poste le plus élevé au monde, celui de ministre. Un ministre le plus digne de confiance, droit et précis que possible, c'est ça que nous devons être. Nous devons dépendre de Dieu pour le faire. Maintenant, dans le livre de l'Exode, au chapitre 4, Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront pas, ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, le Seigneur ne t'est pas apparu. » Et le Seigneur lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main? » Et il répondit, « Une verge. » Il dit, « Jette-la par terre. » Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. Et le Seigneur dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Et il étendit la main et l'attrapa et il redevint une verge dans sa main. Afin qu'ils croient que le Seigneur, le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, t'est apparu. Et le Seigneur lui dit encore, « Mets maintenant ta main dans ton sein. » Et il a mis sa main dans son sein, et quand il la retira, voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. Il dit, « Remets ta main dans ton sein. » Et il remit sa main dans son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. Remarquez les deux signes et comment. Et voici, s'ils n'écoutent pas la voix du premier signe, ils écouteront la voix du deuxième signe. Laissez-moi lire le... Et il arrivera, s'ils ne te croient pas et n'écoutent pas la voix du premier signe, qu'ils croiront à la voix du dernier signe. Et il arrivera, s'ils ne croient pas aussi à ces deux signes, et ils n'écoutent pas ta voix, que tu devras prendre de l'eau du fleuve et le répandre sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Maintenant, dans Saint Jean, le premier chapitre, et le sixième verset, nous lisons ces versets, ou ce verset. Saint Jean, le premier chapitre, et le sixième verset. Il y eut un homme envoyé par Dieu, dont le nom était Jean. Un homme envoyé de Dieu, dont le nom était Jean. Et puis, dans Ézéchiel 24:24, je souhaite prendre cette écriture pour relier l'Ancien Testament aux prophètes et au Nouveau Testament, afin que vous compreniez que c'est la même chose tout le long de l'Exode, du début à la fin. Ainsi, Ézéchiel est pour vous un signe. Vous ferez entièrement comme il a fait. Et quand ces choses arriveront, vous saurez que je suis le Seigneur Dieu. Maintenant, inclinons la tête juste pour un moment, alors que nous nous approchons respectueusement de lui par la prière. Père Dieu, nous venons au nom du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Jésus-Christ, le juste. Nous venons sachant qu'il nous entendra, parce que nous ne venons pas comme quelqu'un qui vient juste d'arriver dans le bâtiment, mais nous sommes venus avec hardiesse et foi, croyant que ce qu'il a promis, il le fera. Aussi, nous demandons aujourd'hui, Seigneur, que tu prennes chacun de nous qui est ici présent, depuis la chair jusqu'à l'arrière du bâtiment et dans tous les recoins, et que tu ouvres chaque cœur, et que tu circoncises nos oreilles, afin que la parole du Dieu puisse venir du ciel ce matin et se déverser dans nos cœurs, afin que nous puissions croire, alors que nous entendons la parole du Seigneur qui a été portée à nos oreilles ce matin. Et nous te remercions pour ta parole. Ta parole est la vérité. Et là, alors que nous voyons les mauvais jours s'approcher, toute la colère de Dieu s'est élevée dans les cieux. Et c'est à n'importe quel moment que quelque chose pourrait arriver à cette nation qui t'a abandonné, qu'une grande explosion pourrait complètement rayer cette nation de la carte du monde. Avec les menaces qui pèsent d'un pays impie, anxieux de les exécuter, et sachant cela, au lieu de s'approcher de Dieu, il semble que les gens s'en éloignent. Sachant que le livre de la Révélation et que toutes les Écritures ont prédit ce jour, recevons donc cet avertissement, Seigneur, de ne pas être trouvés paresseux et en train de s'assoupir comme autrefois. Puissions-nous nous lever et nous secouer Puissions-nous en avoir la compréhension aujourd'hui, plus que jamais auparavant. Puissent nos cœurs être tellement en feu. Après ce jour, que le feu qui est allumé dans nos cœurs, dans nos âmes, balayera ce pays, Seigneur, et qu'il sera un témoignage vivant, peu importe où nous nous trouvons. Bénis les malades et les affligés, ceux qui sont dans le besoin, qu'ils soient au milieu de nous ou en dehors de ce lieu, ton peuple, partout. Bénis ta parole, Seigneur. Sanctifie ton serviteur et tes serviteurs qui écoutent, pour qu'ensemble nous puissions réaliser davantage que le moment de ta venue est proche, comme jamais auparavant dans notre vie. Non seulement je prie pour ceux qui sont présents, mais aussi pour ceux qui entendront cette bande autour du monde, afin qu'ils puissent entrer dans l'Église du Dieu vivant. Car nous réalisons qu'il n'y a qu'une seule façon de devenir membre de cette Église, et c'est par la naissance de l'Esprit, en étant baptisé dans un seul Esprit pour former un seul corps. Je prie, Dieu, pour chacun d'entre eux autour du monde, et puisse toute la gloire te revenir. Et puissions-nous tellement préparer nos âmes que d'un seul cri autour du monde, nous puissions crier, « Oui, viens Seigneur Jésus! » Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Un vrai signe qui est négligé. Les hommes ont cherché des signes depuis Pharaon jusqu'à aujourd'hui. Et Jésus nous a parlé qu'il viendrait un temps où il y aurait des gens qui rechercheraient des signes. Il a dit qu'une génération méchante et adultère rechercherait des signes et qu'ils en recevraient un. Et cette génération devait recevoir un signe de la résurrection. Ce serait une génération faible, méchante et adultère, recevrait un signe de la résurrection. Mais comme cette Écriture qui est là devant nous, dans Ézéchiel, au 24e chapitre, puis au verset 24, ce prophète est devenu un signe pour eux. Et c'est de ce signe que je désire parler. Cet homme est devenu un signe pour Israël. Et tout au long des Écritures, Dieu a utilisé ses prophètes comme des signes. Et ils ont toujours été négligés. Ils ne semblent jamais saisir ce signe. Ils recherchent toujours un signe en lien avec de l'émotion. Même les pharisiens du temps de Jésus ont dit, « Montre-nous un signe venant du ciel. » Et Jésus leur a répondu qu'ils obtiendraient un signe. « Vous avez déjà un signe. » Il a dit, « Vous pouvez discerner les cieux. Vous pouvez regarder ce signe. Vous dites, si le ciel est d'un rouge sombre demain, il y aura du mauvais temps. » S'ils avaient regardé à un signe, ils l'auraient regardé lui. Et ils auraient su qu'il était le signe de Dieu pour eux. Parce que leur prophétie le concernant s'accomplissait devant leurs yeux, mais ils ont continué à chercher un signe. Comme c'est étrange que les hommes fassent cela, de chercher un signe, alors qu'un signe est là avec eux, au milieu d'eux. Et là, Israël était dans cette condition. Et parfois, la torture que ce signe doit subir est étonnante. La torture que Jésus a dû subir pour prouver le signe de Dieu, qu'il était le Messie. Nous découvrons ici ce jeune prophète du nom d'Ézéchiel qui est constamment utilisé comme un signe tout le temps. Comment il s'est torturé. À un endroit ici, nous trouvons, il s'est couché sur son côté gauche pendant 390 jours. Dieu lui a dit de prendre des haricots et du potage, de tout mettre ensemble, de le faire cuire et de le déposer à côté de lui, et aller se coucher sur une tuile et se coucher sur son côté gauche seulement, ne pas se retourner pendant 390 jours. Pensez-y. Et puis il lui a dit, « Tourne-toi sur le côté droit et couche-toi là 40 jours encore. » Il a dit ici, « Ce que vous voyez, Ézéchiel, dit-il, parce que tu portes l'iniquité du peuple chaque jour, je compterai une année pour eux. » Étant ça, tous les jours qu'il coucha là, ça signifiait pendant une année qu'il serait en captivité et que Dieu n'oublierait pas leurs iniquités et Dieu n'entendrait plus leurs prières. Mais la torture que cet homme a dû subir, pourquoi cela serait-il nécessaire? Beaucoup se sont demandé pourquoi une telle chose devrait-elle être nécessairement faite par un homme. C'est parce que les gens ne liront pas la parole, et ils ne prieront pas. Donc Dieu est souverain et il envoie son prophète pour être un signe. Les gens ne liront pas, ils ne se soucient pas de lire. Ils ne prieront pas parce qu'ils sont trop, ont d'autres choses à faire. Ils ne peuvent pas prendre le temps de prier. Et la Bible est ennuyeuse pour eux. Elle n'a pas assez de choses intéressantes pour ces jours modernes ou n'importe quel jour. Vous savez, je crois que Paul a dit, « Vous êtes des épîtres de Dieu, lus de tous les hommes. » Dieu utilise les gens comme signes, pour montrer ses signes. Et plusieurs fois, ce signe, et à chaque fois, surtout, à moins que ce soit avec les élus, ce signe est négligé et critiqué, moqué, rejeté. Et considéré même dans l'Ancien Testament, au jour des prophètes, ils étaient considérés comme des personnes mentalement perturbées. Ils pensaient que ces prophètes étaient des névrosés, qu'ils avaient quelque chose qui n'allait pas dans leur esprit. Et ils les voyaient venir du désert et produire des signes, puis retourner dans le désert. Et ils se moquaient d'eux parce qu'ils ne connaissaient pas l'Écriture. Jésus a dit aux pharisiens une fois concernant la résurrection, ils ont dit, nous avions un... La loi dit que si un frère meurt et laisse une femme sans enfant pour lui, son frère doit prendre cette femme et lui susciter des enfants à son frère, le défunt. Il a dit, nous en avions un qui avait 7 frères. Et le premier a pris une femme et il est mort, ne laissant aucune postérité. Et puis son frère l'a prise et puis il est mort, et ainsi de suite jusqu'au 7e. Et finalement, la femme mourut. Et ils ont dit... Maintenant, dans la résurrection, ils ont dit maintenant, de qui sera-t-elle femme de ces 7? Oh, j'aime cette parole. Jésus a dit, vous commettez toujours une erreur, ne connaissant pas les Écritures ni la puissance de Dieu. Oh, comme il aurait réprimandé cela aujourd'hui s'il se tenait ici. Vous commettez toujours une erreur, ne connaissant pas les Écritures ni la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est associée à l'Écriture. Vous faites beaucoup d'erreurs. Il a continué en disant, dans la résurrection, ils ne se marieront pas et ni ne sont donnés en mariage, mais ils sont comme des anges. Il n'a pas dit qu'ils seraient des anges maintenant, ils seraient comme des anges. Les glandes sexuelles seraient retirées d'eux. Ils ne se marieraient pas, ils ne se marient pas. Nous vivons au jour de la moralité ou des jours mortels, du royaume mortel. Mais il vient un jour où il y aura un royaume immortel. Et ce royaume immortel, c'est l'endroit où vivront les rachetés. Ceux qui ont été rachetés. Et la vie qui quitte ce corps pour retourner au Dieu qui l'a donné, et elle retournera l'arbre de vie un jour pour régner à jamais. Comme ce jeune homme, jeune prophète, a sacrifié et donné sa vie entière pour être un signe pour son peuple du châtiment qu'ils allaient recevoir parce qu'il était ce que nous appellerions indifférent. Ils ne voulaient rien avoir à faire avec Dieu. Ils ne croyaient ces prophètes-là. Ils se moquaient d'eux. Et d'ailleurs, et peu importe à quel point ils ne voulaient pas le croire, Dieu a fait qu'ils le réalisent de toute façon. Jézabel ne voulait pas admettre qu'Achab était son pasteur, mais il l'était. Dieu a fait qu'elle reçoive le signe de toute façon. Ainsi en est-il de cette nation aujourd'hui. Le Dieu juste et honnête, par sa parole, ne pouvait rien laisser arriver ce que nous voyons arriver sans avoir un signe quelque part. Il a toujours eu ça. Maintenant, nous devons le chercher. Et je suis sûr que les gens qui ont une bonne compréhension de l'Écriture savent comment le voir. Noé était un signe en son jour au peuple du jugement qui venait. Noé, à son époque, était considéré comme un fanatique. Il était un prophète. Il était considéré comme quelqu'un qui n'était pas saint d'esprit. Et l'homme a continué à bâtir, année après année, la construction d'une arche, alors qu'il n'y avait même pas d'eau sur la terre à part ce qui était dans les sources. Et il a prédit quelque chose de ridicule à l'esprit charnel. Il a dit, « L'eau tombera du ciel. » Sans doute beaucoup lui auraient dit, « Montre-moi l'endroit. » La science dirait, « Je peux prouver qu'il n'y a pas d'eau là-haut. » Mais pourtant, si Dieu lui a dit que cela allait venir des cieux, Dieu veillera à ce que sa parole soit accomplie. Et alors qu'il n'y avait pas encore d'eau en vue, alors qu'il n'y avait jamais eu de nuages dans les cieux, jamais eu une goutte de pluie, il n'y avait jamais eu une telle chose comme la pluie, pourtant, tout le temps, Noé préparait une arche pour la pluie. C'était une preuve vivante que ce prophète croyait ce dont il parlait, car il s'y préparait. Et toute personne qui croit vraiment ce dont vous parlez se préparera pour cela. Puis-je m'arrêter ici juste une minute au jour de Noé? Comme l'a dit Jésus, il en sera de même à la venue du Fils de l'homme. Si les églises aujourd'hui croyaient ce dont elles parlaient, elles pratiqueraient ce qu'elles disent. Comment pourrions-nous construire de grands bâtiments et dépenser des millions de dollars dans les constructions et faire une grande diffusion des organisations et des choses comme ça et prêcher que le Christ vient à tout moment? Comment pourrions-nous continuer à regarder nos assemblées et les voir se séparer de la puissance de Dieu et entrer dans la mondanité et apporter cela dans l'Église et mélanger ça et nous le permettons? À cause de la popularité et à cause des opinions populaires et des différences confessionnelles en essayant de surpasser l'organisation voisine, comment pourrions-nous pratiquer ce que nous prêchons? Et le monde voit cela et ils le savent. Ainsi, la religion est devenue une chose comme simplement appartenir à un certain ordre ou appartenir à un certain club de quelque chose, la religion. Le salut de Christ n'est pas une société. Ce n'est pas de joindre quelque chose. C'est une expérience vivante. Maintenant, Noé produisait ce dont il parlait. Il a dit, « Il arrive un déluge de jugement sur cette génération injuste. » Et Dieu déversera des cieux la pluie et il inondera la terre entière. Et non seulement il allait le faire, mais il pourvoyait d'un moyen pour échapper et demandait aux gens de venir à cela. Mais ils ne voulaient pas l'écouter. Mais Noé, en tant que prophète, était un signe pour cette génération un signe dont on ne disait rien de bon à ce sujet, un homme que l'on croyait fou, qui préparait quelque chose au sujet de laquelle il n'y avait aucune preuve nulle part, et il n'y en avait jamais eu, et qu'il y aurait un jour quelque chose à y faire. Mais c'est comme ça que les gens semblent penser aujourd'hui. Ils peuvent penser à un abri anti-atomique pour se cacher. À quoi sert un abri anti-atomique pour se cacher quand il n'y restera même pas un arbre ou un rocher sur la Terre? Nous avons un abri anti-atomique. Le chrétien en a un. Comme je l'ai dit il y a quelques dimanches passés ou que j'ai pensé quelque part le long de la route, ce n'est pas un abri contre ce qui tombe de l'extérieur. C'est un abri pour se réfugier à l'intérieur, où nous entrons à l'intérieur, tête baissée, de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit, en Christ, l'arche de sécurité de Dieu. Mais Noé, un névrosé, il était considéré en ce jour-là comme tel par la folie de la prédication et en manifestant un signe devant le peuple, en leur donnant un avertissement à condamner le monde. Condamner le monde en construisant une arche quand il n'y avait pas d'eau pour qu'il puisse flotter. Il a condamné le monde, a dit la Bible Hébreu chapitre 11. Il a condamné le monde et a sauvé sa propre maison en préparant et en étant un signe pour Dieu des jugements à venir en ce jour-là. Quelle chose glorieuse! Des années plus tard, il y a eu un autre signe. C'était Moïse, un prophète. C'était le signe de Dieu pour Israël. Ils avaient été 400 ans dans la servitude. Et Dieu leur a préparé un signe juste avant la délivrance. Il était un signe de délivrance à Israël et un signe de jugement à l'Égypte. Noé était un signe de délivrance pour son peuple et un signe de jugement pour le monde perdu pour l'incrédule. Les eaux mêmes qui ont englouti le monde et noyé le monde étaient les seuls moyens de sauver Noé. La seule chose qui pouvait le sauver était le jugement. La seule chose qui sauvera l'Église aujourd'hui est le jugement. Dieu rendant le jugement jusqu'à la chute. Mais Noé a prêché la même chose. Il devint un signe. Et maintenant, Israël, après 400 ans, ils commencèrent à crier pour la délivrance. Et Dieu ne se révèle jamais et ne se montre jamais jusqu'à ce que son peuple soit prêt à recevoir ce qu'il montre. Maintenant, oh, ce qui pourrait être dit là, si c'est comment ce Dieu a laissé cette nation nue. Ils connaissent mieux. Les journaux l'ont publié partout et partout et partout. Les signes de sa venue ont été produits. Il continue de cette façon, continue à le négliger. Ils sont sans excuse. Nous sommes à la fin. Dieu envoie seulement ses prophètes quand le peuple veut un prophète. Dieu envoie son signe quand les gens sont prêts pour un signe. Mais la chose qui est que les gens rarement, ils arrivent à un endroit où ils veulent de l'émotion, où ils veulent quelque « montre-nous un signe du ciel ». Mais quand Dieu envoie un signe, alors ils n'en veulent pas le voir. C'est donc caché aux yeux des sages et des intelligents pour être révélé aux bébés qui veulent apprendre. Ils le négligent, le signe. Comment Israël devait savoir quand l'enfant attendu est né? Quand ils ont regardé là-bas et ont vu par le temps des années dans lequel ils vivaient, « Ton peuple sera étranger pendant 400 ans dans une terre étrangère. Mais ensuite, je les ferai sortir. Ils devaient savoir que l'heure était proche. Et quand ils virent cet enfant né, que même la mère et le père, Amram et Jochébed, n'avaient pas peur des ordres du roi, et ils l'ont caché dans la rivière, et il y avait des crocodiles. Pas un seul d'entre eux ne pouvait le mordre. Ils ont vu qu'il y avait un signe, mais il a été négligé. Il n'était pas prêt pour ça. Dieu l'a élevé et l'a mis même dans le palais de Pharaon. Et que Pharaon l'a élevé, il lui a donné toute l'éducation qu'il pourrait avoir pour montrer Dieu comment il fait les choses. Et puis il l'a amené derrière le désert et l'a laissé oublier tout à ce sujet. Pharaon l'avait alors formé. Dieu le formait. Pharaon a eu 40 ans pour le former, puis Dieu a pris 40 ans pour le former. Il a laissé oublier tout cela, la formation de l'homme et la formation de Dieu. Pharaon formait un fils pour être un chef, un diplomate, pour être un guerrier, un combattant, pour être un autre pharaon qui allait protéger la place de l'Égypte dans ses hauts lieux, pour battre toutes les autres nations et leur faire rendre hommage à Pharaon. Mais Dieu l'a amené à l'arrière du désert, l'a tout enlevé de lui et lui a montré en 5 minutes par un buisson ardent qu'il était un Dieu vivant. Il a enlevé toute la peur de lui, l'a préparé et il était un signe. Dieu veut que son peuple prie. Et quand Israël a tellement été taxé pour atteindre une telle condition qu'ils ne pouvaient plus aller plus loin, leur temps était accompli et leur fardeau était plus loin que ce qu'ils pensaient, puis ils commencèrent à prier. Et quand les gens commencent à prier, alors Dieu commence à entendre. Il était temps que la parole de Dieu s'accomplisse. Ainsi, quand Amram et Jochébed virent qu'il était temps que la parole soit accomplie, ils allèrent en prière à Dieu. Et c'est généralement ceux qui prient, c'est celui qui a le fardeau, celui qui obtient quelque chose. Ce sont ceux qui prient, ceux qui sont ordonnés de Dieu à le faire. Nous parlions ce matin à la table au petit déjeuner pendant que nous nous dépêchions de faire du pain grillé et ainsi de suite pour aller à l'église. Il y avait quelque chose dit à propos d'un certain homme qui avait, loin d'ici, qui avait recommencé à fumer des cigarettes après avoir été guéri d'un cancer. J'ai dit, quelle pitié! Alors, quelqu'un a dit, c'est la chose la plus horrible à se débarrasser qui existe, fumer la cigarette. J'ai dit, je le sais, parce que c'est un démon. Et j'ai dit, c'est un démon. Et j'ai dit, et vous ne pouvez pas l'arrêter, à moins que la puissance de Dieu ne soit pour vous. Je connais 2 camarades au début de ma vie. Tous 2 voulaient être des hommes de Dieu. L'un d'eux, dès que je l'ai conduit à Christ, il a commencé à allumer une cigarette. Il fumait 5 ou 6 paquets par jour. Il s'asseyait et allumait l'une après l'autre toute la journée. Il a essayé d'allumer une autre cigarette et quelque chose ne l'a pas laissé faire. Il marcha vers le poêle, ne sachant pas que les Écritures les condamnaient, et a ouvert le poêle et a poussé le paquet dans le poêle. Et c'était réglé. Ou un autre homme qui voulait devenir chrétien, il a fait de son mieux, il a crié au Seigneur, il les a quittés pendant 2 ou 3 semaines. Et quand il est revenu à lui-même dans cet état, il a perdu son esprit, il est revenu à lui-même, il s'est retrouvé dans la cour arrière en train de battre une pièce d'étain sur sa tête, couru dans la maison très vite et pris ses cigarettes et a fumé un paquet avant de quitter la maison ce soir-là, juste l'une après l'autre. Vous voyez? L'un avait été appelé. Aucun homme ne peut venir à moi si ce n'est mon Père qui l'attire. Et tous ceux que le Père m'a donnés viendront à moi. Que voulait dire cet avertissement? C'était la vie à un. Il l'a vu. On ne peut pas le voir à moins que Dieu ne le révèle. Il est caché aux yeux des sages et intelligents et se révèle aux enfants, à ceux qui veulent apprendre. C'est vrai. Amram et Jochebed savaient qu'il était temps. L'heure était proche. Et je veux dire ceci pendant que j'en parle, ce n'est pas celui qui veut ou celui qui court, c'est Dieu qui fait miséricorde. C'est vrai, c'est Dieu. Ainsi aujourd'hui, oh, laissez cela pénétrer profondément. Si aujourd'hui, Dieu vous a appelé et que vous vous êtes séparés des choses du monde et que la puissance glorieuse de Dieu vous a sanctifié de ces choses, vous devriez être la personne la plus heureuse du monde. Il y a des millions qui le feraient s'ils le pouvaient, mais ils ne le peuvent pas. Ce n'est pas pour eux. Ceci est le jour où l'Église est appelée à sortir, séparée. C'est différent de ce que c'était, oui. Quand les gens commencent à prier, quand Israël a commencé à prier pour un prophète, Dieu avait un prophète. Dieu avait un prophète tout ce temps. Parce que Dieu est toujours en avance sur eux. Il avait préparé l'homme, mais il attendait que les gens aillent prier, que les gens le désirent. Comme cela est typique à aujourd'hui, je pourrais dire, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce n'est pas quelqu'un qui fait des réveils, ce n'est pas un autre homme pour une grande organisation qui obtient que tous les groupes s'organisent ensemble. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un prophète envoyé de Dieu avec un message qui condamnera le monde. Dieu peut avoir l'homme si les gens sont prêts pour cela. Vous savez de quoi je parle. Il a peut-être fait quelque part dans le monde. Mais le peuple doit le vouloir. Dieu ne force pas les choses dans le fond de votre gorge. Vous devez le vouloir. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. C'est exact. Après que Moïse eut été reconnu, après que les gens plutôt aient su qu'il avait besoin d'un chef, ils commencèrent à prier. Ils commencèrent à prier pour que Dieu leur envoie un chef ou quelqu'un pour les faire sortir. Il leur a envoyé un homme, un prophète. C'était son signe. Maintenant, si cet homme n'était pas un prophète, il s'était levé et avait dit, « Je suis un génie militaire. » Israël avait le droit de ne pas croire cet homme. Parce que Dieu, à chaque fois, sans échouer, envoie un prophète. Mentionnez une fois dans la Bible ce qui a toujours été. C'est toujours un prophète qu'il envoie avec « Ainsi dit le Seigneur ». Même David lui-même, le plus grand génie militaire d'Israël. Et pourtant, David était un prophète. Certainement qu'il l'était. Il était le prophète, David. Il attendait qu'ils aient ce désir dans leur cœur pour écouter ce prophète qu'il allait envoyer. Bien sûr, il y avait un groupe qui a dit qu'ils l'ont fait, et ce n'est pas le cas. Il a prouvé plus tard qu'il n'avait pas raison. Il était juste tout excité, avec des émotions, et la Bible dit, une multitude mélangée est venue vers eux. Qu'est-ce que cela a fait? Cela a apporté des problèmes dans le désert, et à chaque fois, le phénomène arrive. Oh, j'aimerais pouvoir faire entrer ça profondément. Chaque fois que Dieu envoie quelque chose, il y a une grossière imitation charnelle qui va avec. À chaque fois. Toujours quelque chose, la soi-disant de cela, qui s'installe juste dans les gens. Mais un véritable, authentique prophète de Dieu reste avec « Ainsi dit le Seigneur ». Il ne bougera jamais de cette Écriture s'il est envoyé de Dieu. Moïse est resté exactement sur l'Écriture. Dieu a dit « Je les ferai sortir ». Il a dit à Moïse, « Je t'ai envoyé faire le travail. » Et Moïse a eu une expérience. Il avait rencontré Dieu. Il avait la parole du Seigneur. La raison pour laquelle Dieu envoie des prophètes est parce qu'ils ont la parole du Seigneur. La parole du Seigneur vient au prophète. Et s'il n'a pas la parole du Seigneur, alors il n'est pas un prophète. Il y a beaucoup d'imitations charnelles qui essaient de dire qu'ils sont prophètes tout au long des âges, mais ils s'éloignent toujours de la parole du Seigneur. Mais un vrai prophète reste exactement sur la parole. Maintenant, n'oubliez pas cette citation. Un vrai prophète reste avec « Ainsi dit le Seigneur ». Jésus nous a avertis dans les derniers jours ce qui arriverait. Mais un vrai serviteur, le vrai prophète, ne manque jamais de rester exactement avec « Ainsi dit le Seigneur ». Moïse est resté avec le Seigneur. Il était un signe. Il était un signe pour Israël que leur jour de délivrance était proche. Il était un signe pour l'Égypte que le jour de leur fin était proche. Parce que plus tard, ils se sont noyés là-bas, dans la mer morte, toute l'armée de Pharaon. Ils étaient à la fin de leur puissance militaire. Et un prophète était un signe d'une fin nationale. Pensez-y, comme Dieu est grand et dans quelle simplicité il travaille. Certainement, si les incultes peuvent le comprendre, les instruits le devraient aussi. Amen. Si les esclaves dans les fausses boueuses d'Égypte pouvaient comprendre que c'était un prophète de Dieu et que l'heure était proche, combien plus le palais du Pharaon devrait-il le savoir? Mais c'est le genre qui ne le saisissent pas. C'est le genre qui le manque à chaque fois quand cela... Moïse se tenait là, regardant par les fenêtres ses enfants d'Israël qui passaient. Pour Israël, pour Pharaon, il était des esclaves et des chiens. Pour Moïse, il était les élus de Dieu. La Bible a dit que Moïse a choisi, a fait son propre choix de subir l'opprobre de Christ, l'estimant comme une plus grande richesse que les plaisirs du péché, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Moïse savait qu'ils n'étaient pas des tripoteurs debout. Ils étaient un peuple avec une promesse. Lui-même, il savait qui il était. Il ne pouvait pas leur dire. Ils doivent le reconnaître eux-mêmes. Il savait lui-même ce que son travail était, ce qu'il devait faire. Il savait que Dieu l'avait élevé pour ce but, mais il ne pouvait pas leur dire, en tant qu'il était aveugle à cela. Il ne s'est jamais révélé ouvertement jusqu'à ce qu'ils le reconnaissent. Ensuite, ils ont vu ce signe et ils le savaient. Il a dit, « Je vais donner un signe à Israël. Prends ce bâton, transforme-le en serpent. Ils n'écouteront pas cela. Ensuite, mets ta main dans ton sein, retire-la, sois guéri de la lèpre. » Puis ils y croiront. Et alors, s'ils ne veulent pas l'entendre, prends les eaux du Nil là-bas, verse-les sur la terre sèche, et toutes les eaux deviendront du sang. C'était un signe national. Les gens vont le croire quand ceux qui sont prêts à le recevoir le croiront, quand ils verront le signe de Dieu se mouvoir, mais la nation doit avoir quelque chose de différent. Donc, il leur donne tous un signe. Dieu a utilisé un homme humble, un prophète, pour être un signe de la fin de cette condition nationale là-bas. Dieu envoie-nous en un autre. Suscite-en un autre. Si le peuple de Dieu allait prier pour cela, il en susciterait un. Les gens doivent avoir ce fardeau. Ils doivent se réveiller. Ils doivent réaliser cela. Ils doivent connaître dans quel jour nous vivons et quelle est la situation autour de nous avant qu'ils ne puissent se réveiller. Vous continuez à vivre comme vous l'avez fait toujours. Je dois construire une nouvelle maison cette année. Je dois obtenir une meilleure voiture que les Jones. Je dois faire ceci. Oh, tant d'emphase sur cela. Lorsque vous réalisez que peu importe, c'est très bien, mais vous devez réaliser, mon frère, que tout cela va périr. Jésus a dit, « Ne craignez ceux qui peuvent tuer le corps, la bombe atomique russe. Ne craignez pas celui qui pourrait transformer ce corps en poussière volcanique en quelques minutes. Ne craignez celui qui peut tourner le corps de cette façon et jeter l'homme en enfer. » C'est cela. Comme je parlais à un médecin à l'hôpital quand ma mère y était, il parlait de la supériorité de la science, du fait que l'on peut travailler sur différentes parties du corps et d'y mettre des médicaments et de voir comment cela tue un certain germe et sauve un autre germe. J'ai dit, c'est merveilleux, c'est simplement épatant. Je l'ai écouté pendant un moment, mais j'ai dit, docteur, c'est bien, j'apprécie cela, c'est vraiment bien. Je suis certainement reconnaissant à Dieu pour cela. Mais regardez, vous passez toute votre vie à essayer de trouver quelque chose sur la création. Mais pourquoi ne pas prendre le temps de penser à celui qui l'a créé? celui qui l'a fait, celui qui en est le concepteur. Dieu est celui qui l'a conçu. Combien plus grand est le Créateur que la création qu'il a faite? Pourquoi mettons-nous tellement d'emphase sur la création quand nous ne pensons pas au Créateur qui a fait les cieux et la terre et qui a fait le corps et la vie? Il peut le détruire chaque fois qu'il le désire parce que cela lui appartient. Cela devient une chose vraiment merveilleuse de travailler sur le corps humain. Nous apprécions cela. Ils peuvent transférer un œil d'un homme à l'autre, prendre ces minuscules petites cordes et enlever l'œil d'un homme hors de son orbite et le mettre dans l'orbite de celui d'un autre. Et cet homme peut voir avec cet œil. C'est une chose merveilleuse. Auparavant, si une mère, quand elle allait donner naissance à un bébé et le bébé ne pouvait pas naître, elle était faite d'une certaine façon et que le bébé ne pouvait pas naître, la mère et bébé, les deux mouraient. C'était ça. Mais vous en entendiez rarement parler. C'était différemment, peut-être jamais. Mais aujourd'hui, ils peuvent prendre cette mère alors qu'elle est déjà en train d'avoir le bébé. Ici, quand la mère a même presque accouché, vous voyez, ils peuvent amener cette mère dans une pièce et lui donner un petit anesthésiant et sortir cet enfant, avoir une naissance ordinaire, sortir le bébé. Nous apprécions cela. Donnez-moi un système. Vous arrêtez une soupape quelque part sur ce système d'eau dans la ville et regardez ce qui se passe à la valve principale. Ça la fera exploser. Mais cependant, nous pouvons couper une jambe, amputer un bras, et par le miracle de Dieu, il va contourner ce sang d'une certaine manière, et en une seconde, le précipiter d'une autre manière, vous sauvez la vie de la personne. Qui peut faire ça? Dites-le-moi. Couper l'artère, couper la ligne principale ici, quelque part, dans le système d'eau, quand cette pompe, à partir d'une valve, que va-t-il faire? Essayez-le une fois et découvrez ce qui se passe. Il n'y a pas d'autre moyen de contourner cela. Il doit revenir à la valve. Si Dieu n'avait pas fait un chemin pour que ce sang puisse contourner instantanément un retour vers le cœur et vous seriez mort, chaque fois que vous cogneriez votre doigt, ce serait la mort, instantanément. Chaque fois que vous vous couperiez quelque part et cela attendrait une artère ou quelque chose, ce serait la mort instantanément. Coupez votre doigt, vous seriez mort. C'est tout. Cela retournerait dans le cœur à nouveau. Ça vous retournerait. Mais Dieu... Maintenant, nous pensons que c'est merveilleux. Nous pensons que c'est merveilleux. Et nous apprécions comme la science peut. Ils peuvent ligaturer cette artère et les empêcher de saigner. Tout cela est bien. Mais qui est celui qui a conçu cela? Voyez-vous? Nous regardons partout dans la création et oublions son créateur. Voyez-vous? Nous regardons aux choses naturelles et oublions tout ce qui est spirituel. C'est ce que nous faisons. Maintenant, les prophètes de Dieu, ils ont sa parole. C'est la raison pour laquelle les gens croient en eux. C'est la raison pour laquelle Dieu a dit à Moïse, il a dit dans la Genèse, beaucoup dans l'Exode, tout au long, si quelqu'un vient parmi vous qui est spirituel ou un prophète, maintenant, comment allons-nous reconnaître ces choses? Il a dit, quand il dit quelque chose et que cela arrive, qu'il dit autre chose et que cela arrive, alors croyez-le! Voyez-vous, c'est un signe! Il donne donc sa parole non aux dirigeants, non aux dictateurs, mais aux prophètes. Khrouchtchev n'est pas un signe pour le monde. Non, monsieur, Hitler n'était pas un signe pour le monde. Mais quelque part, dans un certain endroit, Dieu a un humble prophète qui attend l'heure. Il est le signe. Il est le signe qui condamnera le monde et sauvera l'Église, le prophète. Élie était un signe en son temps, le prophète Élie. Il était un signe de la parole de Dieu, un jugement en Égypte et une délivrance pour Israël s'ils voulaient croire en lui. Dans ce jour de péché du temps d'Élie, quand tout Israël s'était détourné de Dieu, ils étaient retournés dans le péché, ils avaient oublié le commandement, ils avaient oublié comment ils avaient été conduits par Dieu et le grand Jéhovah qui avait ouvert la mer Rouge les a fait sortir d'Égypte et un grand prophète comme Moïse parmi eux, ils l'avaient oublié. Nous l'oublions. Vous, les méthodistes, vous oubliez John Wesley. Vous, luthériens, vous oubliez Martin Luther. Vous, les baptistes, vous oubliez John Smith. Beaucoup d'entre nous oublions Charles Finney, le plus grand d'entre eux. On dit que 97 % des convertis de Fini ont tenu bon. 75 % des convertis de Moody ont rétrogradé en un an. Et ceux de Wesley, ce groupe de la sainteté, il était constamment en train de rétrograder. Mais Fini avec 97 %. Ce petit maigrichon chauve marchait vers la chaire et regardait l'auditoire comme cela et les hommes pouvaient défaillir parce qu'un jour, il était resté dans les buissons jusqu'à ce que le Saint-Esprit eût pris le contrôle de lui. Il l'a fait. Il était un signe de la fin. Il y a environ 200 ans de ce grand réveil que Wesley et les autres avaient eu et le jugement qui arrivait. Il était un signe. Cette génération pécheresse. Et comment Élie pouvait se tenir là, audacieux et sévère, seul, sans personne avec lui. Mais il était le signe de Dieu. Le reste du clergé était allé avec Achab à la manière du modernisme. Il était devenu moderne dans cette génération-là. Mais à quel point ce vieux Achab, ce vieil Achab, et avec tout son grand gain, il a apporté toute l'Église dans le catholicisme, ou pas le catholicisme, mais à peu près la même chose, dans l'idolâtrie. Il les avait amenés dans un endroit où ils étaient mous. Certains pourraient adorer de cette façon et simplement la liberté. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ils s'entendent arriver à ce genre de condition. Et comment Élie se tenait là, audacieux, avec l'ainsi dit le Seigneur. Oh Dieu, donne-nous des hommes comme ça. Il n'avait pas peur de parler à Jézabel à propos de sa condition. Il n'avait pas peur d'Achab. Il n'avait pas peur de se tromper. Il se leva avec audace et se dirigea vers Achab et dit, « Même la rosée ne tombera pas jusqu'à ce que je l'ordonne. » Amen. Qu'était-il un signe pour cette génération pécheresse? Israël l'a-t-elle vu? Non. Ils ont ri de lui. Ils se sont moqués de lui. Il a prédit qu'il y aurait une sécheresse, qu'il y aurait des troubles, de la faim, de la famine. Il a prophétisé avec audace, se tenant seul avec l'ainsi dit le Seigneur. Il a dit, « Seigneur, ils ont tué tous ceux qui sont vrais. Ils les ont tous tués. Je suis le seul qui reste, qui se tient avec ta parole. » Quel était le problème? La parole de Dieu. Élie voulait rester avec la parole. Il était un vrai prophète. Les autres prophètes avaient dit, « Oh, eh bien, ça ne fait pas beaucoup de différence. Jéhovah ne s'en soucie pas. Jéhovah sans souci. Ça doit être sa parole. » Et Élie se tenait hardiment sur cette parole avec l'ainsi dit le Seigneur. Dieu lui a donné un petit secret un jour. Il lui a dit, « J'en ai 7000, Élie, dont tu es le témoin ici. » Ils n'ont pas assez d'honneur pour sortir et le réclamer. Ils se cachent dans les buissons. Mais pourtant, dans leur cœur, ils sont mes serviteurs. Ils n'ont pas plié le genou à Baal. Ils ont peur de le faire, mais je te donne un signe. Et tu as un signe. Tiens-toi là. Et tiens-toi sur ma parole. Je prendrai soin de toi. Donne-leur un signe. Alléluia. Dieu, envoie-nous quelque chose comme ça. Ce sera un signe de la parole de Dieu. Et chaque promesse que Dieu a promise sera accomplie dans cette personne parce qu'il est un signe oublié. Oh, il pensait que parce qu'Achab était un grand roi et que toutes les nations le craignaient, cela suffisait, mais Élie était un signe de la parole. C'est ça, un vrai prophète, un signe de la parole. Et alors qu'il était le signe de la parole, il ne le croyait pas, il n'avait aucun besoin de lui. Il était un signe pour la veuve. Quand Dieu l'a envoyé du Mont Carmel au large du ruisseau Kérit, il l'a envoyé là-bas. Après qu'il ait été nourri par les corbeaux et le ruisseau s'était desséché, il est descendu à la maison de cette veuve. Quel endroit pour un prédicateur! Mais il est allé là-bas parce que Dieu lui a dit d'y aller. Mais il est allé là-bas. Il a dit, « Je lui ai commandé de te nourrir. » Il aurait dû être un signe. Il aurait dû être un signe quand elle était là-bas. Elle avait assez de farine pour faire un gâteau pour qu'elle et son garçon le mangent. Assez d'huile dans la cruche pour faire un petit mélange pour l'accompagner. Elle a dit, je suis ici en train de ramasser deux bâtons et en ce matin terrible, chaud, brûlant, où un vieil homme au visage laineux, des cheveux gris qui pendaient dans son dos, s'est sorti là-bas et sa tête chauve qui brillait se pencha au-dessus de la porte et dit, apporte-moi un peu d'eau et à boire. Et puis dit, apporte-moi aussi un morceau de farine dans ta main, un gâteau. Elle a dit, je n'ai pas assez de farine, je suis ici maintenant ramassant deux bâtons pour faire un petit gâteau pour mon fils. J'en ai juste assez pour en faire un pour lui et moi. Nous allons le manger et mourir. Il a dit, ne crains pas, car ainsi dit le Seigneur, c'est l'homme dont nous avons besoin. Ce n'était pas... Maintenant, il se peut que cela arrive, ma sœur. Cela pourrait arriver, je ne sais pas. Non, non. Élie était certain. Ainsi dit le Seigneur. Le pot ne manquera pas et la cruche ne tarira pas jusqu'à ce qu'au jour où Dieu enverra la pluie sur la terre. Amen. Voilà. Cela aurait dû être assez de signes pour elle. Elle représente l'Église aujourd'hui. Après qu'Élie est resté avec elle pendant un petit moment, elle avait un petit garçon, elle est devenue malade. Sa maladie était si grave jusqu'à ce qu'il ne reste plus de souffle en lui. Il est mort, alors qu'est-ce qu'elle a fait? L'Église a déjà vu ses signes. Mais dès qu'un petit désastre survient, rapidement, elle veut blâmer l'Église pour cela. Elle voulait accuser Élie. Elle a dit, « Toi, homme de Dieu, maintenant, tu es venu ici pour me remémorer mes péchés et prendre la vie de mon fils. » Élie prit le fils, monta dans le grenier où il dormait là-haut, le coucha sur son lit, s'étendit sur lui. Il dit, « Seigneur Dieu, alléluia! Retourne l'âme de ce garçon. » Et l'enfant s'est réveillé. Il le redescendit. Cette femme regarda son enfant, puis il le regarda. Alors, elle sut qu'il y avait quelque chose là. Elle dit, « Par ceci, je sais que la parole de Dieu est dans ta bouche. » Amen. Il était un signe pour cette veuve. Quand elle a vu la puissance de Dieu qui rend vivant ou qui peut tuer, ramener son enfant mort à la vie, elle a dit, « Par ceci, je sais que tu es un homme de Dieu. » Elle le savait. Les nations aujourd'hui en riraient comme elles l'ont fait alors. Ils ne le croiraient pas, mais cette femme connaissait mieux. C'était un signe alors, comme il était un signe pour ressusciter son fils, qui était mort à la vie. Ces prophètes sont toujours des signes de Dieu. Quand Élie a été appelé à une épreuve de force, il a dit, « Si Dieu est Dieu, servons-le. Si Baal est Dieu, servons-le. » Cela ne pourrait-il pas être un jour merveilleux pour Élie aujourd'hui? Si la politique est Dieu, servez-la. Qu'avons-nous en politique? Qu'avons-nous fait? Nous n'avons rien d'autre qu'un tas de corruption. Nous n'avons rien. Mais nous avons perdu presque chaque ami que nous avons à travers les nations. Ici, la semaine dernière, nous avons perdu deux ou trois autres nations aux communistes. Nous taxons les gens et recollectons leur argent et nous l'envoyons là-bas pour nourrir les gens qui se tournent vers le communisme dès qu'ils en sont sortis. C'est une hypocrisie. C'est vrai. Nous professons d'être chrétiens. Agissons comme des chrétiens alors. Pas en les nourrissant de ce genre de choses. Cela a très peu de choses à voir. C'est-à-dire, la personne ordinaire qui a bon cœur fera cela. C'est la religion, ce n'est pas le salut. Tant de gens confondent la religion et le salut. La religion, c'est de nourrir les veuves et les pauvres et ainsi de suite. C'est la religion, mais le salut est une nouvelle naissance, être né de nouveau. C'est différent. La religion mahométante est une religion. Il y a beaucoup de religions. Maintenant, sur le mont Carmel, ce jour-là, il appela l'épreuve de force. Il appela Achab et les milliers de prêtres qui appartenaient au temple de leur dénomination. Il les a appelés sur le mont Carmel et il dit, « Venez ici, rencontrez-moi ici, je vais tous vous faire face. » Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait l'insidie du Seigneur. Il n'avait pas peur. Il a dit, « Offrez un taureau, appelez Baal. » Que le Dieu qui répond par le feu soit Dieu. Donc, toute la journée, du matin jusqu'au soir, ils ont sauté sur l'autel, ils se sont fait des incisions, ils ont crié, ils ont hurlé. Élie marchait de long en large et il disait, crie un peu plus fort, peut-être qu'il est parti en voyage de pêche ou quelque chose comme ça. Il est parti se promener ou quelque chose, car il avait ainsi dit le Seigneur, il était satisfait, il avait la parole de Dieu. Frères, sœurs, de quoi un homme a-t-il besoin de plus qu'une promesse de Dieu? Dieu a dit qu'il le ferait. C'est Abraham. Il savait Dieu capable d'accomplir ce dont il avait parlé. Il savait que Dieu pouvait le faire parce que Dieu l'a dit. Alors, donc, il les a appelés à venir là-bas. Et ainsi, il se faisait des incisions, il hurlait et criait toute la journée jusqu'au soir du sacrifice. Alors, Élie, regardez comment il a fait cela. La première chose qu'il fit fut de rouler 12 pierres ensemble. Dieu n'est pas divisé. Les dénominations divisent les églises, mais pas Dieu. L'un d'eux a dit, « Es-tu chrétien? Je suis un baptiste. » Alors, ce n'est rien de plus que dire qu'il est un cochon. Il a dit, « Je suis un méthodiste. » Eh bien, ce n'est plus qu'un cochon, encore une fois pour Dieu. Je dis, « Es-tu chrétien? » Pour être chrétien, vous devez être semblable à Christ, la divinité qui habite en vous, avec le Saint-Esprit, comme au jour de la Pentecôte. Non pas une émotion, mais une véritable Pentecôte, vous voyez? C'est juste. Je suis pentecôtiste, je suis unitaire, je suis un trinitaire, je suis... Oh là là, ce n'est pas plus dire que vous êtes n'importe quoi d'autre. Cela ne signifie rien pour Dieu. Cela divise. C'est ce qui s'était passé là-bas parmi les ecclésiastiques. Mais Élie a roulé ses 12 pierres ensemble pour montrer que Dieu est un seul Dieu. Sur chacun d'eux, il les a roulés ensemble. Alors, quand il les a rassemblés comme ça, il a tué le taureau, il l'a déposé sur le dessus de l'autel, sur le bois. Il a dit, « Maintenant, pour être sûr qu'il n'y a pas de trucage, allez me chercher 12 barils d'eau. » Et il a réellement trempé ce bois dans l'eau. Oh, alléluia! Il voulait montrer que Dieu était Dieu, pourquoi il avait l'ainsi dit le Seigneur. Il était un prophète. Il avait la parole de Dieu. Alors, ce jour-là, s'ils disent qu'ils vont vous mettre hors de l'Église, ils feront ceci ou cela, si vous êtes baptisé au nom de Jésus et toutes ces choses comme ça, un non-sens, c'est l'ainsi dit le Seigneur. L'autre soir, une personne charmante m'a parlé, m'a entouré de ses bras. Il a dit, Frère Branham, il a dit, je veux vous demander quelque chose. Il a dit, si vous pouviez simplement faire un petit compromis, ce genre de choses dont vous parlez. J'ai dit, quelle chose? Il a dit, tout à propos de ce baptême. Il a dit, les églises de Chicago et tout autour aimeraient vraiment vous avoir, mais ils ont peur que vous le mentionniez. J'ai dit, bien sûr, je vais le mentionner. Certainement, je le mentionnerai. Il a dit, eh bien, c'est la seule chose qu'ils ont contre vous. J'ai dit, alors, ils ne sont pas contre moi. Je n'étais pas celui qui l'a dit. Dieu l'a dit. Je défie n'importe lequel d'entre eux de venir le prouver, vous voyez? Il a dit, eh bien, vous voyez, vous devriez être d'accord et être en communion. C'est la même chose qu'il voulait qu'il fasse. Dieu ne fait pas de compromis. Non, monsieur, il ne fait aucun compromis. Il a dit, maintenant, Frère Branham, je veux vous demander quelque chose. Est-ce que l'ange du Seigneur, il a dit, nous croyons tous en l'ange du Seigneur. Est-ce que l'ange du Seigneur vous a dit ceci? J'ai dit, peu importe ce que dirait l'ange du Seigneur, si lui, l'ange du Seigneur, il dirait cela, mais s'il dirait quelque chose de contraire, il ne serait pas l'ange du Seigneur. J'ai dit, peu importe ce qu'un ange ou quoi que ce soit d'autre dit, Paul a dit, si un ange du Seigneur, si un ange du ciel vous prêche un autre évangile, qu'il soit anathème. Les anges et tout, toutes sortes de choses charnelles dites à propos des anges, Joseph Smith, Brigham Young et tous ces différents cultes des Adventistes et de tout le reste qu'ils voient toutes sortes de choses comme ça, mais c'est toujours contraire à la parole. Mais Dieu soutient sa parole. C'est sa parole. J'ai dit, c'est la parole du Seigneur, certainement. Tout ce que je n'ai jamais appris m'a été enseigné par lui. Je ne suis jamais allé au séminaire ou à l'école. Cela vient de lui. J'ai dit, si c'était contraire à cela, je ne le croirais pas, parce que c'est la parole de Dieu, c'est en premier. Tout le reste est un mensonge. La parole de Dieu, restez avec elle. Alors, Élie, quand il est passé, il a trempé ses bûches partout avec 12 barils d'eau, versez-les par-dessus cela. Il est sorti là aussi, calme qu'il aurait pu l'être. Pourquoi? Dieu ne peut pas mentir. Dieu lui a dit. Il a dit, Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu et que je suis ton serviteur et je l'ai fait selon ton commandement parce que c'est l'ainsi dit le Seigneur. Je l'ai fait parce que tu m'as dit de le faire, parce que c'est selon ta parole qu'il soit reconnu maintenant que tu es Dieu. Et le feu du Seigneur est descendu. Ça l'a consumé, le sacrifice, les bûches imbibées d'eau enflammant les rochers et tout le reste, et consuma tout. Alors Israël s'écria, les 7000, que Dieu soit Dieu. Élie, comme il était beau de voir ce vieux petit bonhomme maigre et frêle, tout ridé, ce petit bâton à la main, une petite cruche d'huile suspendue à son côté, un morceau de peau de mouton enroulé autour de lui, eh bien, il le mettrait en prison aujourd'hui s'il marchait dans la rue. Mais il laisse les femmes porter des shorts, mais il ne voudrait certainement pas, vous voyez, comme ça, sortir. Alors, les voici qui arrivent, ils descendent à travers et à travers la colline avec ce bâton. Maintenant, le Mont Carmel n'est pas une petite place vacante au milieu du désert. C'est une grosse montagne. Il court à une sorte d'angle comme celui-ci et court jusqu'à un sommet. Il regarde vers la mer. Et Élie et Gézi ont couru tout le long du chemin, le sommet. Et Élie tomba sur son visage et se mit à crier à Dieu, le dos tourné vers l'Occident, vers le soleil. 3 ans et 6 mois, pas même la rosée était tombée. Il a dit à Gézi, va voir si tu vois quelque chose, un nuage au-dessus de la mer. Debout sur cette montagne, regardant dans cette direction-là, il a dit, je ne vois rien. Il est resté là. Dieu, si ces gens se sont repentis, si ce peuple est revenu vers toi, s'ils sont prêts à s'éloigner de toutes ces absurdités et revenir à ta parole, alors tu es Dieu pour répondre à ta parole. Laissez-moi dire la même chose aujourd'hui. Prenez cette dénomination et brisez-les. Oubliez cette différence dénominationnelle et laissez les gens revenir à la parole de Dieu, à la ligne du salut. Je vous prouve qu'il y a un Dieu qui peut encore répondre par le feu. Laissez les gens invoquer Dieu. Laissez appeler une personne. Laissez les gens appeler un prophète. Dieu le mettra sur la scène. Je défie les nations de le faire. Tomber à genoux et appeler à Dieu. D'envoyer un libérateur et regarder ce qui va arriver. Essayez-le juste une fois. Dieu répondra. Dieu le fait toujours. Se prosterner et dire, Dieu, que ce soit aujourd'hui. Ces gens étaient autrefois contre toi. Ces gens sont brisés dans toutes sortes de dénominations là-bas. Mais aujourd'hui, tu t'es prouvé, tu es Dieu. Et le peuple dit, jetez Balaam. Je leur ai tué des milliers de prêtres. Ils sont hors du chemin maintenant, Seigneur. Tous les obstacles ont disparu, les petites barrières qui nous séparaient. Un méthodiste voudrait venir adorer avec les baptistes. Le baptiste aimerait venir avec les pentecôtistes. Le vrai de cœur là-bas, c'est 7000 fidèles. Mais ils ne peuvent pas le faire. S'ils le font, ils sont expulsés des églises. Certains d'entre eux s'en fichent. Ils viennent de toute façon, c'est vrai. Mais laissez-les tous briser ces préjugés et se réunir et dire, nous allons oublier tous ces credos et catéchismes ici et toutes les choses duquel nous lisons. Revenons à la parole du Seigneur. Regardez ce qui se passera alors. Dieu leur suscitera un prophète. Certainement qu'il le fera et cela l'amènera directement à eux. S'ils sont prêts à le recevoir, d'abord ils doivent prier. Dieu attend. N'est-il pas étrange que Dieu veuille que les gens y prennent part? Quand Jésus regarda la moisson, il dit, « La moisson est mûre, les ouvriers sont peu nombreux. Vous priez le Seigneur de la moisson. » C'était lui. Vous me priez que j'envoie des ouvriers dans ma moisson. Il y a une partie que vous devez faire. Dieu attend que son Église l'appelle. Il l'a toujours fait. Dieu attend aujourd'hui que le peuple appelle son serviteur dans l'action. Et le serviteur ne peut entrer en action avant que le peuple le prie. Israël ne pouvait pas entrer en action là-bas avec des signes et des prodiges jusqu'à ce qu'ils tombent sur leur visage et prient pour un libérateur. Dieu avait son libérateur. Dieu avait un prophète suspendu là-bas dans le désert, là, gardé là pendant 40 ans, attendant qu'ils s'alignent pour prier. Mais quand ils se sont redressés et ont commencé à prier, alors Dieu a envoyé le libérateur. Dieu fera la même chose aujourd'hui si les gens venaient seulement qu'à se rassembler, à prier, d'accord? Il était un signe pour ces faux prophètes et pour Achab, qu'il était le serviteur de Dieu, qu'il était un prophète de Dieu. Alors, il était aussi un signe pour Israël, qu'il pouvait fermer les cieux ou ouvrir les cieux quand il le désirait. Il était certainement. Montrez-moi quelqu'un qui peut fermer les cieux. Montrez-moi qu'on peut ouvrir les cieux en dehors de Dieu. Et la parole de Dieu est avec les prophètes. Michée, un signe pour Josaphat. Michée était un signe pour Josaphat. Que Dieu garde un vrai prophète sous la main. Maintenant, remarquez, il avait 400 prophètes. Achab en avait. Il a appelé ses 400 prophètes. Et d'un commun accord, ils lui ont dit, Et pourtant, dans le cœur de Josaphat, un homme de Dieu, il savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il savait que quelque chose n'allait pas. Il a dit, « N'en as-tu pas un de plus? » Après 400 prophètes debout là, il a dit, « Ce sont tous des prophètes, les prophètes de Jéhovah. » Il y a les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les unitariens, les trinitaires et toutes les différentes sortes. Nous les avons tous ici, d'un commun accord. Ils disent que c'est la plus grande nation qui soit. Nous n'avons rien à craindre, comme un petit garçon qui siffle dans le cimetière, vous savez, quand il a peur. Ne t'inquiète pas pour ça. Il a dit, « Mais n'en as-tu pas un de plus? » Il a dit, « Oh oui, il y en a un autre. » Mais il a dit, « Je l'ai. » Vous voyez, il a dit toujours du mal à propos de ce pays. Il dit toujours quelque chose de mal qui va nous arriver. Josaphat a dit, « Je voudrais l'entendre. » Oh oui. Qu'était-il? Un signe. Indépendamment du nombre d'organisations et de dénominations, Dieu a toujours un prophète qui reste avec la parole. Josaphat savait qu'Akab était condamné parce que ce vrai prophète, Élie, avait été un signe pour les nations. Et il a dit, « Les chiens lécheront ton sang pour venir ici. » C'est exact. Il savait que Jézabel et lui l'avaient fait venir. Il savait qu'il l'avait fait. Voyez? Et Michée a dit, ils s'approchent de lui, ils disent, « Maintenant, je vais vous dire, si vous voulez entrer dans la prochaine association, je vais vous dire ce que vous devez faire. Vous n'avez qu'à être d'accord que tous ces prédicateurs ont raison, vous voyez? Vous lui dites, allez-y. » Il a dit, « Vous êtes tous tout à fait d'accord. » J'ai dit, « Je vais vous dire ce que nous ferons. Nous verrons si vous entriez dans notre organisation, si vous faites juste là, si vous faites quelque chose, compromis sur quelques-unes de ces choses dont vous parlez, vous y allez simplement. Allez, soyez d'accord pour eux, continuez avec eux. Pourriez-vous imaginer un vrai prophète de Dieu s'éloignant de la parole de Dieu? » Bien, ses camarades ont dit, « Mais nous avons une vision, ces 400 prophètes. Nous savons, nous sommes des prophètes, nous savons, car nous sommes des prophètes. » Michée a dit, « Je ne doute pas ce que vous ayez eu une vision. Je n'en doute pas du tout ce que vous avez, que vous en ayez eu une. Mais ce n'est pas selon cette parole. » Amen. Il a dit, « J'ai aussi eu une vision. » Amen. Oh, miséricorde. Il était un signe. Il était un signe. Il a dit, j'ai vu une vision et j'ai vu Israël comme des moutons dispersés sur une colline, n'ayant pas de berger. Et ce grand surveillant, évêque, est monté et l'a frappé sur la bouche. Il a dit, où est allé l'Esprit de Dieu quand il est sorti de moi? Il a dit, tu le verras quand tu seras en prison, tu le verras. Et Akab a dit, mettez ce type en prison, nourrissez-le de ce pain d'affliction et donnez-lui de l'eau d'affliction à boire. Il a dit, quand je reviendrai en paix, dit-il, alors je prendrai soin de lui. Le vieux Michée se tenait là avec « Ainsi dit le Seigneur ». Il a dit, « Si tu reviens, Dieu ne m'a pas parlé. C'est ça. Qu'était-il? Il était un signe que les prophètes de Jéhovah, les prophètes de Dieu, restent avec la parole de Dieu. Vous avez un prophète qui dit que vous devriez être baptisé dans les titres de Père, Fils, Saint-Esprit. C'est un faux prophète. Si vous dites qu'il y a parmi vous un prophète qui dit il y a trois dieux, c'est un faux prophète. Il n'y a pas d'écriture à ce propos, c'est vrai. Mais un vrai prophète de Dieu restera avec cette parole. Et si sa vision est contraire à cette parole, il n'est pas un vrai prophète de Dieu. Nulle part dans la Bible, personne n'a jamais été baptisé dans le titre de Père, Fils, Saint-Esprit. Regardez Paul là-bas en prison, un petit juif au nez crochu, chauve, qui est resté 20 ans dans une prison romaine. Il a écrit ses lettres. Maintenant, que pensez-vous que les femmes prédicatrices pensaient que Paul, quand il a dit qu'elles gardent le silence dans les églises, je ne leur permets pas de parler. J'imagine qu'il aurait pu vraiment s'en prendre à lui. Que pensez-vous que les évêques pensaient, eux, les évêques, qui disaient toutes ces différentes choses, quittez ces choses ici, celles-là, tout ceci, tout cela. Paul, dites-moi qui est ce type. De toute façon, ce type qui allait rester là en prison, mais il avait rencontré Jésus, il savait de quoi il parlait. Et à partir de ce même groupe, après la mort de Paul, ils se sont finalement formés à partir de ce groupe d'évêques et de hauts dignitaires au conseil de Nicée. Et cela a formé l'Église catholique, s'éloignant de la parole de Dieu. Voilà où vient votre Père, Fils, Saint-Esprit. Je défie quiconque de n'importe où, de n'importe quelle nation, de le réfuter. Ainsi dit le Seigneur. Le baptême utilisant le titre de Père, Fils, Saint-Esprit est faux. Ainsi dit le Seigneur, je commande à chacun de vous ici ou sur bande qui n'a pas été baptisé au nom de Jésus-Christ d'être baptisé de nouveau au nom de Jésus-Christ. Paul, dans Paul, dans Actes 5, 9 ou 19, 5, a dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit que vous avez cru? » Ils ont dit, « Nous ne savons pas qu'il y avait un Saint-Esprit. » Il a dit, « Alors, au nom de quoi avez-vous été baptisés? » Ils ont dit, « Nous avons été baptisés, mais pas dans le baptême chrétien. » Père, Fils et Saint-Esprit n'est pas un baptême chrétien. Aucun chrétien n'a jamais été baptisé comme ça dans la Bible ou pendant des centaines d'années après la Bible. C'est un credo catholique et non une doctrine chrétienne. Montrez-moi dans la Bible. C'est une fraude. C'est l'œuvre des démons. Je ne veux pas dire que les gens baptisés comme ça sont comme ça. Dieu a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne savent pas mieux. Mais l'heure est venue. Nous devons revenir à la parole si nous nous attendons à ce que Dieu travaille en ce jour comme il l'a fait alors. J'ai dit à ma mère quand elle était en train de mourir, avant qu'elle ne meure, j'ai dit, « Mère, quand je suis devenu un chrétien, quand j'étais garçon, j'ai commencé à chercher et à découvrir. Je savais qu'il y avait un Dieu, des visions que vous connaissez et des choses qui se sont passées tout au long de la vie. » J'ai dit, puis j'ai découvert que l'Église catholique disait, « Nous sommes l'Église. » Ça ne fait aucune différence de ce que dit la Bible. Nous croyons que tout cela est bien. Nous sommes l'Église. Ce que nous disons, Dieu le lit au ciel et alors ils le font de cette façon. C'est un seul corps. Les luthériens ont dit, « Ils ont tort. Nous le croyons de cette façon. » Les baptistes disent, « Ils ont tort. Nous le croyons de cette façon. » Il y a des centaines de ces corps. Pourquoi, comment pourrions-nous avoir la foi? Lequel d'entre eux a la raison? Il y a une chose qui soit vraie, je ne le savais pas alors. J'ai dit, mère, je suis retourné à la Bible et j'ai découvert la façon dont ces premiers apôtres, quelle sorte d'église ils avaient, comment ils enseignaient et ce qu'ils faisaient. Je l'ai fait exactement comme ils l'ont fait, comme il l'a dit, la Bible, et j'ai obtenu les mêmes résultats. Amen. Excusez l'expression, mais la preuve du pudding est dans sa consommation. C'est vrai. J'ai les mêmes résultats qu'ils ont eus. Oui. Donc, vous ne pouvez pas construire la confiance en quelque chose. Il y a 900 façons différentes d'aller dans cette direction de cette manière. Ensuite, je découvre dans la Bible que Jésus a dit lui-même, si quelqu'un prend une parole ou la change dans ce livre, quelqu'un qui ajoutera quelque chose à cela ou en retranchera quelque chose, il en sera de même de sa part du livre de vie. Il a montré qu'il avait là son nom, d'accord, mais il serait retiré. Oh, nous devons revenir à cette parole. Les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne faillira jamais. Oui, monsieur, que la parole de chaque homme soit un mensonge. La mienne est vraie, a dit Jésus. Restons avec la parole. Oui, oh là là, oui. Josaphat sait que Dieu garde un véritable, vrai prophète qui reste avec sa parole et ne le transgressera pas. Non, monsieur, il est resté avec cela. 400 contre lui, avec leur prophétie également, mais c'était la parole de Dieu avec le même signe et les mêmes choses. Et je dis aujourd'hui, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est un homme, un prophète élevé parmi nous qui restera avec la parole de Dieu, indépendamment de ce que quiconque d'autre dit ou que ce que dit la dénomination. Michée n'avait aucune coopération. Moïse n'avait aucune coopération. Noé n'avait aucune coopération. Aucun d'entre eux seulement n'ont jamais eu de coopération. Tout est contre eux. Mais ce sont des signes dans les mauvais jours avant que Dieu n'envoie le jugement. Et Dieu garde sa parole et veut que sa parole soit gardée par son peuple. Loué le Seigneur. Maintenant, en terminant dans quelques minutes maintenant, écoutez attentivement. Il y avait un homme envoyé par Dieu qui s'appelait Jean. Un signe prophétique. Avant que Jésus ne vienne sur la terre pour se déclarer, il a envoyé un prophète devant lui. L'a-t-il fait? Il a envoyé un prophète. L'Élie de l'Ancien Testament a été prophétisé pour venir au pouvoir d'Élie de l'Ancien Testament. Il devait être un prophète, signe que Jésus allait venir, qu'il devait y avoir un Messie à venir. Et Jean est sorti du désert, il était un signe que le Messie était sur son chemin. Quand Jean apparut, Israël aurait dû savoir par leurs prophètes. C'est là que les gens le manquent. Ils ne croient pas leurs prophètes. Ils ne croient pas. Nous ne croyons pas ce que Pierre a dit était correct le jour de la Pentecôte. Ils ne croient pas que c'est juste. Ils ne croient pas que ce que Paul a dit, la même chose que Pierre a fait. Il a dit, si un ange du ciel prêche une autre parole, qu'il soit anathème. Ils ne croient pas cela, vous voyez? Ils ne le croient pas. Et ils n'ont pas cru leur prophète. S'ils avaient su, ils sauraient qu'Ésaïe a dit, il y aura une voix de celui qui crie dans le désert, qui préparera le chemin du Seigneur. Ils auraient dû le savoir. Il était un prophète. un prince des prophètes. Il leur a dit, mais ils ne le croyaient pas. Non, non, il a dit, il y a un Messie qui vient. Cet homme était un homme envoyé de Dieu. Oh, frère, il n'avait personne qui le suivait. Dieu lui donne une suite, un petit troupeau, tout comme il l'a fait pour Élie. Dieu lui donne sa suite. Il ne l'a pas reçu d'une organisation politique. Il a prêché la parole. Il est resté sur la parole de Dieu. Et Dieu lui a donné un petit troupeau. Élie resta sur la parole de Dieu. Dieu lui a donné un petit troupeau. Cet homme n'avait aucune coopération. Il n'avait aucune suite, aucune coopération. Il n'appartenait à aucune dénomination. Il ne demandait rien. Il ne craignait rien. C'était Jean. Pourquoi? Il est un homme envoyé de Dieu. C'est la raison pour laquelle il s'est levé. Il était Lily debout là pour prouver au peuple que le Messie venait. Il a dit, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, comme disait le prophète Ésaïe. Préparez-vous à rencontrer le Seigneur. » Les pharisiens et les sadducéens se tenaient là et discutaient de leurs manteaux et de leurs affaires. Au même moment qu'ils s'argumentaient, se disputaient ce sujet au milieu d'eux, venait le Messie en marchant. Jean a dit, « Voici, il est là. Alléluia! » Regardez-le. Il l'avait présenté. Le voilà. Il se tient parmi vous, maintenant même. À ce moment-là, le ciel rugit. Jésus est entré dans l'eau. Et Jean a rendu témoignage, voyant l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe, une voix qui crie, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je suis heureux d'habiter. » Oh là là! Jean a dit, « Maintenant, je dois diminuer. Il va augmenter. » Oh, quel prophète! Un signe pour Israël. Oui, monsieur. Il était un homme envoyé de Dieu, bien que son père était un prêtre. Oh oui, son père, Zacharie, était un prêtre. Mais avez-vous remarqué? Dieu ne laissera pas ce prophète se mêler à leur organisation. Son père l'aurait amené à leur école de théologie, à la grande dénomination d'un tel, fait de lui un bon ministre. Vous savez, il l'aurait formé et tout, il lui a donné beaucoup de choses qu'il n'aurait pas dû avoir. Mais Dieu ne voulait pas laisser son âme se contaminer. Comprenez-vous? Il ne pouvait pas laisser cet homme se mêler avec les organisations. Il n'appartenait à aucune d'entre elles, aucune secte, pharisien, sadducéen, hérodien ou quoi que ce soit. Dieu ne l'a pas permis. Il a eu une naissance étrange. Il était un enfant étrange. Il était un prophète. Son père était un prêtre, mais il ne laissait pas se mêler à tout leur hypocrite, aux religions et aux choses pharisiennes. Qu'a-t-il fait? Il l'a amené dans le désert, il l'a formé dans le désert. Quelle formation! Amen. Il l'a formé par l'expérience, c'est ce qu'il y a de mieux, connaissant Dieu. Quand il est sorti, il savait exactement quel était son mandat. Dieu a confirmé ce mandat. Où l'a-t-il revendiqué? Dans la rivière. Maintenant, si vous pouvez faire deux et deux, vous voyez, dans la rivière, il a dit, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. » Préparez la voix du Seigneur, redressez sa voix. Jean, un homme envoyé de Dieu, Dieu ne le laissera pas être contaminé par cela. Il l'a formé dans le désert par Dieu. Il l'a formé non pas dans leur école, non pas dans leur théologie. S'il l'avait fait, il aurait été endoctriné avec des trucs comme vous sortez des écoles aujourd'hui, toutes sortes d'écoles. Non seulement les écoles presbytériennes, baptistes et méthodistes, mais les écoles pentecôtistes, tout aussi mauvaises. Toutes les écoles de théologie l'ont fait sortir de là. Oh! Sa venue a dit à l'esprit d'Isaïe, sa venue. La venue de Jean a été prédite dans l'Écriture. Ésaïe 43 a dit, « Je vais envoyer mon messager devant moi, préparer le chemin. » Ou c'était Malachie 3. Il a dit, « Malachie 3 a dit qu'il enverrait son messager devant lui. Le prophète, le dernier prophète a parlé de lui. La dernière chose a parlé de lui. » Rappelez-vous, le dernier livre de l'Ancien Testament a parlé qu'Élie viendrait aux enfants d'Israël avant la manifestation du Messie. Êtes-vous prêts? Le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, nous montre qu'il reviendra dans les derniers jours pour l'Église des gentils, un signe. Comment font-ils pour le manquer? Il a prophétisé de revenir Juste avant la grande et la seconde venue du Seigneur, dans Malachie, dans le chapitre 4 de Malachie, dans le chapitre 3 de l'Apocalypse aussi, il est dit qu'il serait ici dans les derniers jours, celui-là même qui restera dans la brèche pour le peuple avec un petit troupeau que Dieu lui donnera. Il viendra dans les derniers jours, Dieu l'a dit, il sera un signe pour cette nation des gentils que son temps n'est plus. Et rappelez-vous, quand il apparaît sur la scène, le temps est proche. Prions pour que Dieu l'envoie. Le temps est proche. Dès que son ministère fut terminé, le Messie se fit connaître. Dès que cette personne importante viendra dans les derniers jours, cela terminera son ministère, le Messie se fera connaître. Ce sera ainsi. Le temps est proche, alors nous ferions mieux de prier. Nous ferions mieux de commencer à prier. Son signe donné par Dieu à cet âge prouvera-le ce qu'il est. Tout le monde le saura. Dieu le confirmera. Il montrera des signes et des merveilles comme jamais il n'a été fait sur la terre par lui. Je ne parle pas de se secouer, de trembler, de parler en langue. Il sera soutenu par la parole de Dieu comme cet homme. Pourquoi? Il a été prophétisé de sa venue dans Malachie 4 et Apocalypse 3. Alors, il va venir. Il n'y a rien qui puisse l'arrêter. Il s'en vient. Amen. Il sera là. Amen. Laissez les gens tomber sur leur face aujourd'hui et commencez à crier à Dieu et remarquez ce qui va arriver. Vous le verrez apparaître en puissance. Oui, monsieur, selon l'Écriture, son signe, message sera le tournant. Que saurons-nous qu'il est? Comment saurons-nous que c'est le bon? Vous savez, Israël a demandé cela une fois dans Deutéronome, chapitre 20, 20e verset, je crois que c'est. Il a dit, « Comment saurons-nous que ce sera le bon? Comment savons-nous? Dieu nous dit que nous connaîtrons. Qu'est-ce qu'il va faire? » Il ramènera le cœur des enfants au message pentecôtiste original du début. Oh là là! Un signe qui est négligé. Le vrai signe, il le manque toujours, il le manque toujours. De retour à la vraie Église, le vrai message, il sera seul contre la dénomination audacieuse et intrépide avec « Ainsi dit le Seigneur ». Il ne fera aucun compromis et sans dénomination, il n'aura rien à voir avec quoi que ce soit, ne tire pas de ficelle pour rien. Il sera direct sur la parole « Ainsi dit le Seigneur ». Dieu confirmera son ministère par des signes et des prodiges, une grande révélation de la parole apportée au peuple. Quelle journée est à la portée de main? Comme il se tiendra comme Pierre et Jean après le jour de la Pentecôte, après la Pentecôte, qu'ils avaient été remplis du Saint-Esprit, baptisés, ils se trouvaient dans cette cour du Sanhédrin. Ils se tenaient là avec toute l'audace qui pouvait être maintenue quand ils ont dit, « Nous n'interdisons d'enseigner au nom de Jésus. » Il a dit, « Est-ce juste pour nous de vous écouter ou Dieu jugez entre vous? » Ignorants, illettrés, amen. Ils étaient prophètes. Ils étaient des prophètes loin de Dieu. Ils étaient des signes du Saint-Esprit. Ils étaient prophètes. Ils savaient. Ils étaient tout comme Jean. Il avait été là-haut, à la Pentecôte, et ils avaient trouvé quelque chose. Ils n'étaient pas comme la plupart de nos prédicateurs d'aujourd'hui, autoproclamés, se vantant de la grande organisation que nous avons, combien nous avons eu de nos grands groupes. Nous sommes une grande organisation, nous faisons un grand travail missionnaire. Oh, miséricorde! Oh, nous avons de plus grands auditoires que tous les autres. Qu'est-ce que c'est? C'est une attraction politique. Je veux que vous écoutiez de près les deux ou trois prochaines minutes. Une attraction politique. J'ai sûrement dit quelque chose il y a quelques minutes. Vous savez de quoi je parle? Un signe qui a été prophétisé. Je l'ai laissé de côté. Je vous l'ai laissé. Vous voyez, non seulement vous ici, mais ceux qui vont entendre. C'est à vous d'agir. Faites-le avec peu importe ce que vous voulez. Vous priez, regardez Dieu entrer en scène. Observez-le, accomplir sa parole. Il attend quand les bombes atomiques et les gens ont peur et le Pentagone, ils ne savent pas quoi faire et des signes mystiques dans les cieux, des soucoupes volantes et tout ce que Dieu a prédit. Il est temps pour cette Élie. Il est quelque part d'entrer en scène. Laissez le peuple, laissez ce petit troupeau, ce petit reste que Dieu lui donnera. Laissez ce petit reste aller devant Dieu et regardez ce qui va se passer. Il y aura une confrontation nationale. Il y aura une puissance qu'ils n'ont jamais vue auparavant. Le problème, c'est que cette fois, il sera trop tard pour eux. Les portes seront fermées. Alors, rappelez-vous, nous sommes à la fin des temps. Priez, regardez aujourd'hui ce que nous appelons le ministère. Qu'avons-nous? Maintenant, en terminant, je veux dire ceci. Qu'avons-nous? Nous n'avons rien. Certains de nos plus grands conducteurs, nos plus grands évangélistes, un de nos plus grands évangélistes a dit, « Si je peux trouver 10 % de mes convertis tenir bon une année, je serai très reconnaissant. » Quand il n'y a pas plus longtemps que Finney, il y avait 97 % d'entre eux. Paul en avait 100 et plus. Des centaines. Un a été sauvé. Il était tellement rempli, frère. Il est allé le dire à quelqu'un d'autre. Il l'a dit à quelqu'un d'autre. Ça s'est rendu à des millions. Pourquoi? Il avait quelque chose. Il était sur la parole. Aujourd'hui, nous pensons juste à de grands auditoires. Qu'est-ce que c'est? C'est une organisation politique. Si nous venons, un grand évangéliste vient à la ville, qu'est-ce qui vient en premier? Un groupe d'hommes. Si tous les méthodistes, baptistes, presbytériens, tous, ils inventent un petit système de pointage. Il ne peut que prêcher ceci. Il ne peut pas prêcher cela. Il ne peut pas prêcher ceci, mais il peut prêcher cela. Qu'est-ce que vous avez? Ils vont là-bas. Les femmes, je parle des pentecôtistes. Les femmes vont là-bas jusqu'à l'autel. Elles continuent à supplier. J'ai toujours été contre un appel à l'autel. Autant le dire. Je ne crois pas en cela. Il n'y a pas une telle chose dans la Bible. Comment un homme peut-il venir à moins que Dieu l'appelle? Vous ne faites pas l'en empêcher. Vous n'avez rien à faire. Dieu l'a appelé. L'appel à l'autel est une idée méthodiste. Les appels à l'autel, ils les attrapent. Ils disent, Jean, tu sais, ta mère est morte depuis longtemps. Ouh, oui, frère, ouh. Ce n'est pas une conversion. Ici, il y a quelques nuits, nous avons eu une exposition à Louisville d'une femme amenée dans un cercueil allongée sur une plateforme de l'armurerie. Des centaines de personnes ont déclaré « cours à l'autel ». L'Évangile n'est pas une peur, ce n'est pas un sentiment de sympathie, c'est une conversion par conviction. Surveiller ces réunions, ces grands évangélistes, et même dans mon humble petit ministère, je ne m'exclus pas. Parfois, j'ai honte lorsque je sors. C'est vrai. Que devons-nous faire? Debout et faire des appels à l'hôtel et les persuader. Les petites filles montent là-bas et tout en mâchant du chewing-gum disent, voyez, je vais, ces femmes viennent là avec des cheveux coupés, des visages peints, des pentecôtistes et entrent, sortent et disent qu'elles parlent en langue et ne laissent jamais leurs cheveux pousser. Ils font toujours la même chose qu'ils faisaient. Ne me dites pas que c'est une conversion, c'est une moquerie de Dieu. La Bible a dit que c'est un péché, une honte pour elle de se couper les cheveux. Comment une femme aux cheveux coupés peut-elle condamner une femme qui a de la peinture sur son visage? Je pourrais bien l'entendre. L'heure vient où la cognée soit mise à la racine de l'arbre et tout arbre qui ne produit rien de bon est détruit. Quel est le problème? C'était faux. Parce que nos soi-disant prédicateurs modernes ici, de grands auditoires et remplis d'orgueil, les organisations n'en connaissent pas plus sur Dieu qu'un attentat en connaît d'une nuit égyptienne quand il vient. Ils vont là-bas et si ces gens à la Pentecôte étaient allés là-bas, maintenant Jésus nous a commandé que nous allions là-bas et rester jusqu'à ce que nous recevions la puissance d'en haut. Maintenant, frère, nous sommes déjà ici depuis 9 jours. Laissez-nous l'accepter par la foi. Maintenant, nous avons le Saint-Esprit. Nous sortons parce que nous avons été ici. Nous avons fait ce que Jésus nous a dit de faire. Il n'y avait jamais eu d'expérience. Laissez-moi vous dire quelque chose. Je sais que c'est sur bande, mais le voici de toute façon. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. C'est honteux. Les gens essayant, je n'ai jamais cru que le Saint-Esprit était de trembler. Je n'ai jamais cru que le Saint-Esprit était l'évidence de parler en langue ou de pleurer ou de crier. Ce sont des sensations émotionnelles. Je crois que le Saint-Esprit peut faire cela. Mais le Saint-Esprit, tabernacle, la divinité. Je crois qu'un grand groupe de personnes qui prétendent avoir le Saint-Esprit ne savent rien de cela. Vous rencontrez Dieu. Comment? Le jour de la Pentecôte. Ils disent maintenant que les baptistes aujourd'hui, les presbytériens, les méthodistes, j'ai demandé, croyez-vous que vous avez? Oh oui, nous l'acceptons par la foi. Par la foi, rien. Ce n'est pas ça. C'est une sensation. Vous aimez avoir un coucher de soleil. Vous vous tenez, regardez le soleil se coucher, pleurer, les larmes coulent. Ce n'est pas Dieu. C'est de l'émotion, de quelque chose qui est en vous. Vous entendez parler de quelqu'un qui est malade ou quelqu'un qui meurt, vous criez et pleurez. Ce n'est pas Dieu, c'est de l'émotion humaine. Comment Dieu? J'ai vu des gens à un jeu de balle être si heureux qu'ils balbutiaient avec leurs lèvres. Et tout le reste, ne dites pas cela, nous avons besoin d'un réveil pour le salut. Et les pentecôtistes viennent, font travailler les gens et disent, quand ils parlent en langue, ils ont le Saint-Esprit. Et certains d'entre eux vivent n'importe quel genre de vie après. Écoutez, frère, au jour de la Pentecôte, ce n'était pas le cas. Ils ne se sont jamais appuyés sur aucune langue ou quoi que ce soit. Pendant qu'ils étaient là, debout dans un endroit d'un commun accord, Dieu descendit au milieu d'eux. Et ils ont vu sur chacun d'eux des langues de feu, environ comme cela, suspendues au-dessus de leur tête. Dieu était là. Ce n'était pas accepté-le par la foi ou une certaine émotion. Ils ont été remplis du Saint-Esprit et puis ils sont sortis. Ils ont commencé à parler en langue. Mais d'abord, ils ont rencontré Dieu. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens sont agités et excités des émotions et ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit tabernacle, la divinité. Vos paroles sont des saintes paroles. Je vais vous dire, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est un appel. Les gens entrent, les femmes comme ça entrent, parlent en langue, ils reviennent, ils vont aller au lieu, ils vont à leur église. J'aurais aimé que Billy soit assis ici. Je viens de recevoir une lettre quelque part là-bas l'autre jour. Une femme dit, j'appartiens à une certaine grande, la plus grande organisation de Pentecôtistes, une grande organisation trinitaire. Ils ont dit, toutes nos femmes, frère Branham, se sont coupées les cheveux. J'avais de longs cheveux noirs. Elle a dit, j'ai toujours aimé ça parce que je croyais que c'était du Seigneur. Elle a dit, je n'ai jamais porté de maquillage. Notre église nous apprend que c'est démodé. Ils m'ont dit quand j'avais mes cheveux roulés dans un chignon sur le dos, attention, vous avez un pneu crevé à l'arrière. Et tout ça comme ça, vous avez un pneu crevé à l'arrière. Elle a dit, enfin, mon mari a dit, pourquoi ne pas te couper les cheveux et être comme le reste d'entre eux? Maintenant, je lui ai retourné une lettre. Elle a dit, est-ce vrai? J'ai entendu sur une de vos bandes que le baptême chrétien est au nom de Jésus-Christ. Maintenant, vous savez qu'elle va obtenir, n'est-ce pas? Elle a dit, dites-moi, frère Branham, j'ai faim. Je veux savoir ce que je dois faire. Je vais dire, honte à ce mari rétrograde à vous et ce groupe sans Dieu avec lequel vous adorez. Sortez d'entre eux. Exact. Dieu ne peut pas changer. Quand Dieu dit quelque chose, il le pense vraiment. Je me fous du nombre de prédicateurs rétrogrades qui veulent faire des compromis pour avoir une grande organisation ou un groupe. Nous avons besoin de rédemptionnistes. Les hommes qui prendront position en laissant leurs femmes faire de telles choses, j'ai peu de confiance dans votre expérience de chrétien. C'est vrai. Repentez-vous ou périssez. Bonté divine. Ils entrent comme cela, joignent les églises. Les églises pentecôtistes ressortent. Ils n'ont jamais changé d'un iota. Ils restent la même chose. Ils n'ont jamais progressé d'un iota. Oh, miséricorde, qu'est-ce que c'est? Jézabel moderne. Il n'y a qu'une seule femme dans la Bible qui ait jamais peint son visage et Dieu l'a donné à manger aux chiens. Jézabel moderne traînant le raqab par le collet. N'importe quel petit homme efféminé qui laissera sa femme faire comme ça, porter des shorts et des choses et sortir ici dans la rue et s'habiller en robe qui semble serrée sur la peau comme une peau de saucisse wiener, dépouillée comme ça. Je ne dis pas ça pour plaisanter. Ce n'est pas un endroit pour faire des plaisanteries. Ceci est la parole de Dieu. C'est vrai, n'est-ce pas? Marcher dans la rue avec une robe si serrée jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus marcher. Ensuite, un homme fait une remarque à son sujet et vous voulez vous battre avec lui. Vous devriez avoir besoin de vous faire gifler la mâchoire, c'est vrai, pour la laisser faire cela. Cela montre ce dont vous êtes fait. C'est exactement ça. Ce dont nous avons besoin, c'est de l'Évangile. Dieu suscite quelqu'un sur la scène qui est de retour à la parole. Dieu a dit que ce n'est même pas une chose décente pour une femme que de venir à l'église et de prier avec des cheveux coupés. Et une femme qui se coupe les cheveux, un homme a parfaitement le droit de divorcer d'elle. Elle est une femme déshonorante. La Bible l'a dit. Elle est déshonorante pour son mari. Et elle ne le sait peut-être pas. Toute femme qui portera un short est déshonorante. Elle pourrait ne pas le savoir. Mesdames, je n'essaie pas de vous faire du mal. J'essaie de vous sauver d'un lac de feu et d'enfer. Repentez-vous! Oh, vous dites, j'ai le Saint-Esprit. Et vous agissez comme cela, avec le Dieu qui tabernacle en vous, le Dieu même qui vous a dit de ne pas le faire. Oh, vous dites, j'ai parlé en langue, j'ai vu des démons parler en langue, j'ai vu en Afrique boire du sang d'un crâne humain parler en langue et parler, appeler le diable. J'ai été dans des camps de sorcières et de sorciers où ils parlaient en langue et l'interprétaient. J'ai vu des crayons posés sur la table et écrire dans des langues inconnues. Et un homme vient l'interprète. C'était vrai. Ne me parlez pas de langue. Nous en avons trop en ce moment. Pourtant, je crois que Dieu a une langue inconnue. Je crois que Dieu parle en langue inconnue. Mais ne comptez pas sur cela. Paul a dit, « Bien que je parle avec la langue des hommes et des anges et que je n'ai pas le Saint-Esprit, je ne suis encore rien, bien que je puisse déplacer les montagnes. » Beaucoup de gens essaient de dire, « Oh, c'est un grand homme de Dieu. Vous devriez voir les grands miracles. Pourquoi les démons guérissent? Les démons sortent et font ces choses comme ça. Je connais des sorcières qui sortent et des choses comme ça. On est habillé autour d'elles comme ça. Elles mettent de l'argent dedans. Elles prennent des cheveux de l'arrière de sa tête, les mélangent dans le sang et les jettent, et ces gens sont des gens honnêtes et ils croient. Ce n'est pas cet homme, ce sont eux qui croient approcher Dieu à travers la sorcière. Jésus n'a-t-il pas dit, « Beaucoup de gens viendront à moi ce jour-là et diront, j'ai eu des campagnes de guérison. » Ce n'est pas un signe. C'est un signe que nous sommes à la fin. Jésus n'a-t-il pas dit dans le chapitre 24 de Matthieu, à propos du verset 24, aussi 24-24, il a dit, « Les faux prophètes se lèveront dans les derniers jours et de grands signes de sorte qu'ils séduiraient même les élus si c'était possible. » Mais l'élu se tient sur la parole. Ils savent ce qu'est un vrai signe. Comment un homme qui fait ces choses, qui nie la foi de Dieu, peut-il dire qu'il est un prophète du Seigneur? Comment au monde un homme peut faire cela? Il pourrait être un prophète, comme ceux qui étaient à l'époque d'Akab et de Josaphat, lorsque Michée a pris position, mais il en avait un là-bas qui se tenait sur la parole. Élie, la parole du Seigneur était écrite, qu'Akab viendra à sa fin, et la vision d'Élie était avec cela. Et tout homme qui se dit spirituel ou prophète, reconnaît que toute parole de ceci est vraie. Comment peut-il être trinitaire? Comment peut-il baptiser au nom de Père, Fils, Saint-Esprit et dire qu'il est loin de l'Esprit? Comment peut-il enseigner aux gens cette erreur et être encore loin de l'Esprit? Cela ne peut pas être fait. C'est une impossibilité. Je réalise que ce n'est pas populaire, mais nous ne voulons pas être populaires. Nous voulons être honnêtes. Maintenant, Jézabel et Akab, oui, monsieur. Pourquoi le font-ils? Pourquoi les femmes font-elles, gardent-elles leurs cheveux ébouriffés, se maquillent-elles, et sortent-elles et se mettent des shorts quand les hommes passent par là et des choses comme ça? Les maris le font parce qu'ils n'ont pas un vrai prophète à leur chair pour leur dire la vérité. Ils leur disent, eh bien, ce n'est pas différent, c'est très bien, tu n'as pas à faire ça. Toi, c'est la parole du Seigneur. La Bible a dit, « Toute femme qui revêtira un vêtement appartenant à un homme qui est une abomination devant Dieu, Dieu ne change pas. Comment peut-il changer et être Dieu? Il est infini. » Ils ont besoin d'un vrai prophète qui leur dit que c'est un signe de la fin. La Bible a dit qu'il le ferait. Ésaïe, chapitre 5, a dit que les femmes feraient cela dans les derniers jours. Exactement. Alors les voilà. Mais ils disent qu'ils ont un prophète à la chair, effrayé de la parole de Dieu. Voilà, il a peur de l'assemblée. Prions pour que Dieu nous envoie cette lumière, cette lumière du soir, et envoie-nous celle qu'il a promis de faire à l'Église élue, qui leur dira ce qu'est la vérité, se tenant sur la parole de Dieu. Laissez les Jézabel et les Akab, alors ils les sépareront. C'est exact. Rappelez-vous, quand les femmes commencent à agir comme ça, maintenant retournons en arrière juste un peu, quand ils ont commencé à se couper les cheveux et à agir comme ça, quand les femmes commencent à agir comme ça, c'est à ce moment-là, et cette saison, qu'Élie doit apparaître sur la scène avec le signe de la fin des temps, avec le signe de la fin des temps, comme au jour de Lot. Voyez? Le signe de la fin des temps, quand les femmes commencent à agir comme ça, ils agissent comme ça maintenant, c'est à ce moment-là que l'Élysée doit apparaître sur la scène, passant au peigne fin et appelant, réprimant et démolissant, exactement avec le signe de Dieu derrière lui, en avançant. Il ne va pas appeler un grand groupe, là. Mais la Bible dit, « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » C'est exact. C'est exactement ça. Il doit être rejeté par tous, sauf le petit troupeau, car il est comme Élie, avec ses 700, et Jean, avec son petit troupeau, oui. Voyez où nous nous tenons aujourd'hui? Nous devons revenir à la Pentecôte originale. Nous devons revenir aux choses de Dieu. Nous devons revenir, frères et sœurs. Ne soyez pas trompés dans votre expérience. Nous attendons cette heure. Ne prenez pas, j'espère, je crois par la foi, je l'accepte. Ne faites pas cela. Rencontrez Dieu face à face et soyez remplis de l'Esprit et alors vous observez ce qui se passe. Et si cet Esprit en vous est contraire à cette parole, alors vous laissez de côté cet Esprit. Allez chercher un... Priez pour que Dieu vous donne l'Esprit, alors. « Quand cet esprit s'élèvera au dernier jour, ce sera un avertissement contre eux, ceux qui sont faux, voyez? Parce que Jean a dit, ne prétendez pas dire en vous-même que nous, que vous avez Abraham pour père. Nos pères, nous étions méthodistes, baptistes, presbytériens ou pentecôtistes. Ne prétendez pas dire, vous, Dieu, et que vous êtes des enfants d'Abraham, car Dieu peut de Saint-Pierre susciter des enfants Abraham. Ne pensez pas parce que vous êtes pentecôtistes que vous allez être excusés. Pas du tout. Dieu peut de Saint-Pierre susciter des enfants Abraham. C'est exactement ça. Oui, monsieur. Parlez simplement la parole de Dieu dans la justesse du dernier jour. Sa prophétie l'est. Si vous voulez, laissez-moi revenir juste une minute. Laissez-moi vous montrer comment nous pouvons le savoir. J'ai beaucoup d'écritures ici et je viens d'y faire référence. Je veux vous en lire une. D'abord, prenons Deutéronome, le chapitre 18, et nous verrons juste une minute. Juste ainsi, avant que nous terminions ici, afin que je puisse vous lire cette écriture dans Deutéronome, le chapitre 18. D'accord? Et voyons maintenant. Le 20e verset du chapitre 18, Deutéronome 20. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autre Dieu, pluriel, ce prophète-là sera puni de mort. C'est vrai, spirituellement mort. D'accord? L'âme qui pêche mourra. Nous avons un seul Dieu, pas Dieu. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Comment connaîtrons-nous? Il y en aura tellement. Comment connaîtrons-nous? Celui-ci dit cela, un autre dit cela, comme on dit cela, et l'autre dit cela, et ainsi de suite. Maintenant, regardez, nous savons. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Si Dieu ne l'a pas dit, alors n'ayez pas peur de cela. C'est bon, allez-y et oubliez ça. Voyez? Maintenant, regardez ce que nous attendons aujourd'hui. Le credo des apôtres, le credo des méthodistes, le credo des baptistes, le credo des pentecôtistes, le credo. Qu'est-ce qu'un credo? Où trouvez-vous ça? Je défie quiconque de me montrer le credo des apôtres dans la Bible. Je crois, il n'y a pas une telle chose. Si les apôtres avaient une croyance à laquelle ils s'accrochent, le voici. Repentez-vous, chacun d'entre vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous. Ne voyez-vous pas où nous en sommes, mes amis? Nous sommes dans un état terrible. Qu'est-ce que c'est? Un vrai signe qui est négligé. Maintenant, vous êtes des hommes et des femmes, la plupart d'entre vous, et vous êtes les enfants de Dieu. Ne négligez pas. Rappelez-vous que nous sommes supposés avoir ces choses. Ils sont censés se produire en ce jour, dans cette heure où nous vivons maintenant. Ceci est l'heure juste avant la venue du Messie. Il est censé avoir une annonce venant de Dieu. Laissez-moi lire ça pour vous. Revenons à Malachie. C'est le dernier de l'Ancien Testament. Et écoutez ce qu'il dit ici dans Malachie. Alors nous sommes... Écoutez ça juste un moment. Maintenant, si vous remarquez Malachie 3 en disant que Jésus a dit que Jean venait, « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'Alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. » C'était Jean annonçant la venue de Jésus, et il est venu au temple, exactement ce qu'il a dit, le messager de l'Alliance, l'ange qui était avec, dans le désert avec les disciples ou avec Israël, croyez-vous qu'il était ce messager? Eh bien, dit-il, je viens de Dieu et je retourne à Dieu. Maintenant, pourquoi Paul a-t-il été malade pour le retenir? Après que Jésus soit mort, enterré, ressuscité, après une longue période, Paul l'a rencontré face à face sur la route de Damas. Il a dit, je viens de Dieu et je suis retourné à Dieu. Paul leva les yeux, il y avait une grande lumière, cette même colonne de feu. Savez-vous de quoi je parle? La même colonne de feu, et Paul lui a parlé, il a parlé à Paul, et les gens ne l'ont pas entendu. Ils ne l'ont pas entendu, mais Paul l'a entendu. Il a dit, « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Il a dit, « Qui es-tu, Seigneur? » Il a dit, « Je suis Jésus. Maintenant, lève-toi et va dans la rue appeler la droite. Cela te sera dit à cet endroit. J'ai un prophète qui viendra te dire quoi faire. » Tu vois? Et comment? Paul est descendu, a été baptisé, il a appelé le Seigneur et a reçu le Saint-Esprit. Et Paul a dit, « J'ai une écharpe dans la chair qui m'a été donnée, un démon, un messager du diable qui me frappe, qui est comme coup après coup. » Il prenait du mieux et alors ça revenait à nouveau. Il a dit, « J'ai consulté le Seigneur trois fois pour me l'enlever, mais le Seigneur a dit, « Paul, ma grâce est suffisante. » Mais il a dit, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'expérience de ces révélations, il avait plus par la révélation que Pierre, Jacques, Jean ou aucun d'eux. » Il l'a vu après qu'il soit parti depuis peut-être 2 ans ou plus, debout dans une colonne de feu, lui parlant. Combien plus grand aujourd'hui, 2000 ans après? Et il vit encore. Il a dit, « Il m'a été donné pour que je ne sois pas enflé d'orgueil en disant, « Maintenant, frère, je suis supérieur à vous tous, voyez. Je ne l'ai vu après qu'il a été ressuscité des morts. Je lui ai parlé pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Quelque chose m'a été donné pour me garder humble. » Il est celui qui leur a dit de faire rebaptiser encore une fois au nom de Jésus. Il a dit, « C'est un ange du ciel. » Il a dit, « Je ne suis pas allé à leur école ou quelle qu'elle soit. » Il a dit, « Je ne suis pas allé à Jérusalem tout de suite et pas pendant 14 ans. » Il a dit, « Je suis allé en Égypte, là-bas en Asie. » Il a consulté le Seigneur. Il était là-bas environ 3 ans, étudiant l'Ancien Testament pour voir tout ce qu'on paraît. Et quand il revient 14 ans plus tard, il rencontra Pierre et les autres et il avait le même évangile. Baptisé de la même manière, il faisait la même chose. Amen. Il savait que c'était juste. Oui, monsieur. Écoutez, Malachie maintenant ici. Malachie maintenant, si vous le pouvez, permettez-moi de clarifier cela pour vous, je crois. Passons maintenant à Matthieu, le 11e chapitre. Et voyez, j'ai peut-être mal noté. Je pense que je l'ai. Je pourrais avoir à regarder d'abord pour vérifier. Matthieu 11, voyons voir. Ça commence à... Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Et quand Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, il lui dit, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » L'œil d'aigle de Jean, sa vue, avait baissé là-bas dans la prison, vous voyez. Jésus lui répondit, « Allez, rapportez à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Jean est un prophète. Et s'il entend cela, ce qui se passe, il saura qui je suis. » Vous voyez, il a dit, « Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et toutes les dénominations sont ensemble. » Ça ne le dit pas comme ça, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas comme cela. Cela dit, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent et les morts sont ressuscités. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Voilà le signe. Et comme ils sont partis, et béni est celui qui n'est pas offensé en moi. Maintenant, remarquez, béni soit celui qui n'est pas offensé en moi. En d'autres termes, ou n'a pas honte de moi. Béni soit celui qui n'aura pas honte de moi, voyez. Comme il s'en allait, Jésus se met à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? » Observez ce prophète maintenant. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Pas Jean, oh non. Race de vipères, dit-il à cette dénomination, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Ne vous mettez pas à dire, nous appartenons à ceci, à cela, car Dieu peut de ses pierres susciter des enfants à Abraham. Oh frère, ce n'était pas un roseau agité par le vent avec lui, un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Doit-il changer de vêtements 2 ou 3 fois pendant qu'il prêche? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Ce sont les ministres qui sortent et embrassent les bébés. Vous savez, ils marient les jeunes, ils vont à l'école et font des discussions intellectuelles. Et vous savez, toutes ces choses efféminées. Voyez, ils ne brandissent pas une épée à 2 mains ici sur la ligne de front. Qu'êtes-vous donc allé voir un gars comme ça? Eh bien, il leur demande, qu'êtes-vous donc allé voir un prophète? Écoutez, oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Oui, monsieur. Qu'était-il? Il dit qu'il est plus qu'un prophète. Il était un prophète plus. Il était le messager de cet âge. Qu'êtes-vous donc allé voir, un prophète? Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète, car c'est lui de qui il est écrit. Voici, j'envoie mon messager devant ma face pour préparer le chemin devant moi. Regardez ici dans Malachie 3, voici, j'enverrai mon messager devant ma face. Regardez, maintenant Malachie 4, laissez-moi lire ceci, il va revenir. Voici, le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains. Oui, c'est aujourd'hui, je marche dans la rue et vois ces gens, je peux leur parler, et ils vous rient au nez, se moquent de vous. Je pense que ce que c'est, l'autre jour, je me promenais le long de la place là-bas, je parlais à certaines personnes, ils ont juste dit, ils ont continué leur lutte, quelque chose est venu, il m'a dit, ils sont des cibles atomiques, ils seront bientôt des cendres éparpillées sur le sol, ne t'en occupe pas. Tu as parlé de la paix, préparez-vous et sortez de là. Alléluia, je n'aurais pas pu dire ça, je suppose, préparez-vous, saignez vos reins. Je vous appelle. C'est la raison pour laquelle j'attends. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. C'est exactement ce qui sera. Voici, c'est quand un grand, certains d'entre vous, les agriculteurs, quand un feu bien alimenté frappe un champ de blé, alors il n'est que du chaume. Il gît là, à plat, avec des cendres derrière. C'est ce qu'il va faire, quand ça arrive, quand il va venir. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Il ne restera plus rien d'eux. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. C'est le millénium. Et vous foulerez les méchants. Car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Sortir dans le millénium les cendres des méchants. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Maintenant, écoutez attentivement maintenant. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Maintenant, ça n'aurait pas pu être Jean. Ça ne pouvait pas, parce que le monde aurait été détruit alors. Mais ici, il l'a dit dans Matthieu 3, il envoie un messager devant lui, et Jésus a dit, « C'est Élie qui devait venir préparer le chemin devant moi. Mais avant que cette grande bombe atomique ne frappe, je vous enverrai Élie le prophète. Et il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Prophétie en ce jour. Mais maintenant, vous dites, « Oh, c'est Élie, c'était Jean, le messager de l'Alliance était vraiment Jean. » C'est exactement ça. Jésus l'a dit, il l'a vérifié ici même. C'est de cela que j'ai parlé. Mais voyez, ça ne pouvait pas être Élie qui devait venir, voyez. Ça ne pouvait pas être parce que, voyez, si c'était le cas, alors la prophétie était fausse, la terre n'a pas été détruite à ce moment-là. Voyez, mais avant que le grand et terrible jour du Seigneur ne vienne, je vous enverrai Élie. Et il restera, observe sa première venue, le cœur des pères aux enfants. C'est ce qu'il a fait, d'abord, apporter le message de la nouvelle dispensation, la venue du Christ, maintenant, tirant les vieux pères orthodoxes de cette foi orthodoxe dans une nouvelle foi qui devait naître. Puis quand il vient la deuxième fois, et le cœur des enfants à leur père pentecôtiste et le message original. Maintenant, venez ici dans Apocalypse 3 et vous le verrez encore ici. Donc, c'est prophétisé. Nous sommes à la fin des temps, mon frère. C'est vrai. Comme les 400 prophètes opposés à Michée, ils disent que nous sommes dans ce dernier jour, nous le savons, faux prophètes montrant de faux signes, adhérant à des dénominations. Ils disent, venez y adhérer, allons-y, venez y adhérer à notre Église, apportez votre adhésion. Nous sommes ouverts ce matin pour que vous transfériez votre adhésion à cette Église-ci. Oh, sottise, à quoi sert votre adhésion si vous n'avez pas d'héritage au paradis? Oubliez cela. Les faux prophètes montreront de faux signes. Mais regardez, les vrais prophètes, ils resteront avec la parole de Dieu. Les vrais signes apporteront la vraie parole de Dieu à une véritable Église et la vraie Église recevra la parole et s'en réjouira. Quand le petit troupeau qui sera donné dans les derniers jours, qui sera le reste des gentils qui seront élevés au-dessus, Quand Jésus est venu, il n'y avait pas seulement, mais seulement quelques-uns qui croyaient. Le petit groupe de gens étaient ceux qui croyaient. Jésus les a pris de l'air, en a fait des disciples et a continué. Quand Élie, quand la destruction vient, quand le temps de Noé est venu, il était un signe et il a pris de Jean dans l'arche. Quand Élie est venu, il a sorti les gens de la confusion dans laquelle ils étaient. Quand Jean est venu, tous les prophètes étaient des signes, des signes, des signes, des signes. Il nous a promis un signe au dernier jour. Dans les derniers jours, il y aurait un signe. C'est un signe qui est négligé. Les gens ne le voient pas. Ils passent par-dessus de tout ça et le laissent aller. Frères et sœurs, n'adorez pas l'Église. Laissez-moi dire ceci en terminant maintenant. Si vous avez seulement une expérience d'émotion, de sensation, ne vous reposez pas là-dessus. Ne faites pas ça pour vous ici. Vous êtes, je parle aux gens, je les ai entendus cliquer sur le magnétophone là-bas, juste à ce moment-là, je parle maintenant à l'Église, vous voyez, n'est-ce pas? Je dis beaucoup de choses parfois comme ça pour que les gens sur la ligne demeurez avec Dieu. Surveillez votre vrai signe. Vous le verrez. Ce sera tout autour de vous. Mais des millions marcheront juste à côté. Ils ne le verront pas. Quand Jésus est venu, ils ne l'ont pas connu. Ils n'ont pas reconnu Élie. Vous savez ce qu'ils ont dit quand Élie est monté? Ils ne le croyaient pas, ce non-sens. On dit, c'est un non-sens. Ses enfants, là-bas, dans sa propre ville où il a vécu, prêché, fait des signes et des merveilles, là, dans ce pays. Quand ils arrivent, une alarme. Nous ne pouvons pas trouver Élie. Le Seigneur l'a pris dans un tourbillon. Ils ont ri d'une telle chose. Ici, Élie, Élisée, avec les mêmes signes sur lui, un type de Christ, et son Église, il vient, Élie même, Élisée, les mêmes signes qu'Élie avait, qui descendait faisant cela, même leurs petits-enfants le suivaient et disaient, « Vieille tête chauve, pourquoi n'es-tu pas monté comme Élie? » Voyez-vous ce qui leur est arrivé à ces enfants irrévérencieux? Aujourd'hui, ils rient et se moquent. Ne vous inquiétez pas, mon frère. Le jugement est suspendu dans le ciel en ce moment. C'est écrit sur le visage de tous les Américains. C'est vrai. Le jugement est suspendu dans les cieux. Toute la colère du Dieu Tout-Puissant. Mépriseur de ceux qui sont bons, ayant l'apparence de piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloignez-vous d'eux. Ne prenez une sensation, ne prenez pas une émotion, ne prenez pas jusqu'à ce que vous rencontriez Dieu face à face et laissez l'Esprit de Dieu venir en vous. Il remplira votre cœur et votre âme de puissance, d'amour et de zèle. Dieu, aide-nous à trouver ma place là-bas, quelque part dans les prochains jours. Demeurez là jusqu'à ce que je vois où quelle est la prochaine étape. Nous avons attendu longtemps. J'ai attendu longtemps. Je me souviens avoir tondu ma pelouse là-bas quand j'ai construit cette maison ici. Le Seigneur m'a appelé. Ma femme a pleuré parce qu'elle ne voulait pas quitter sa mère. Elle disait peut-être qu'elle ne serait pas prise en charge. J'ai dit, j'ai aussi une mère âgée. J'étais là un jour en train de tondre la pelouse. Je me suis arrêté et très clairement, une voix est venue. Elle a dit, sépare-toi, alors je te bénirai. J'ai dit, Seigneur Dieu, rends-moi heureux ici. Tu vois ce à quoi je fais face? Toutes ces choses sont finies maintenant. Madame Broy est dans la gloire. Maman Branham aussi. Où dois-je aller, Seigneur? Le jugement va frapper ce pays un de ces jours. Il y aura d'autres nations qui n'ont pas entendu l'Évangile. Il y a des endroits. Quoi que vous fassiez, n'oubliez pas mes paroles. Ne les oubliez pas. Laissez cette encre. Puisse Dieu prendre une plume de fer et les graver dans votre cœur afin que vous ne les oubliez pas. Ne les oubliez pas. Ainsi dit le Seigneur. Revenez à Dieu de tout votre cœur. Revenez. Ne vous reposez pas sur l'émotion, la sensation ou quoi que ce soit. Cherchez Dieu avec tout ce qui est en vous jusqu'à ce que quelque chose se produise en vous qui vous fera vouloir vous mettre en ordre, vouloir être pieux, craindre Dieu. Vous voulez vivre correctement. Faites cela. N'oubliez pas, car nous sommes à la fin des temps. Maintenant, rappelez-vous, nous sommes à la fin des temps. Et rappelez-vous ceci, comme je termine pour prier dans une minute, n'oubliez pas, écoutez-moi, tabernacle. Si cette bande est toujours en cours, écoutez-moi, monde. Où ça va aller? Il s'élèvera un signe, un vrai signe. Peut-être qu'il est déjà là et qu'il est négligé. Un vrai signe que Dieu a toujours donné et on le néglige. Prions. Jésus de Nazareth, as comme cette grande voix a parlé là-bas ce jour-là, il y a quelques semaines, se tenant à côté comme je passais par-dessus cette bûche près de l'arbre et que l'Esprit est descendu à travers la cime de ces arbres et a dit, le Jésus du Nouveau Testament est le Jéhovah de l'Ancien. Ô Dieu, sur ce rocher je me tiens. Tous les autres terrains sont des sables mouvants. Tous les autres terrains sont des sables mouvants. Seigneur, j'ai crié pendant une trentaine d'années dans cette vallée. Ce message, je n'en ai pas bougé d'un pouce de cela, d'où j'ai commencé juste le même message, la même chose, appelant les gens à revenir non pas à une sensation, mais à une expérience de rencontrer Dieu et de naître de son esprit. Oh, que restera-t-il sauf le jugement? Ceux qui rejettent ce message, Seigneur, il n'y aura plus rien. Tu as tellement accompli ta parole pour annoncer les signes des derniers jours et prouver infailliblement que tu es Dieu et que nous sommes ici. Même quand nous entendons de grands évangélistes dans les contrées aujourd'hui, ils crient tous, et la capitale de notre nation et les autres nations sont nommées, et la peur s'installe, et que nous entendrons ces grands hommes débarquer en France, prédisant que la première bombe tombera à Louisville, dans le Kentucky, et que sur des centaines de kilomètres, elle balayera le pays. Ô Dieu! Ils ont eu une chance d'entendre, mais ils ne le voulaient pas. Les journaux, les églises, la télévision, la radio l'ont répandu. Il n'y a pas d'excuse. Alors, Seigneur, tu as dit, « Tous ceux que le Père m'a donnés viendront et personne ne peut venir si le Père ne l'attire premièrement. » Maintenant, Père, je prie cette prière pour moi-même. Me voici devenant un vieil homme maintenant. Et je ne sais pas combien de jours il nous reste, Seigneur. Nous n'en avons peut-être plus qu'aujourd'hui. Mais peu importe ce qui reste, Seigneur, et ce qui reste de ma vie, ô Dieu, est-ce possible? Puisses-tu le prendre et faire quelque chose pour ta gloire? Je prie d'abord pour moi, Seigneur, que tu me donnes ta volonté. Que ta volonté soit faite, Seigneur, quelle qu'elle soit. Je veux qu'il soit dit ce jour-là, quand je viendrai à ta rencontre, cela a été bien fait. Si c'est grand ou si c'est petit, tout ce qui peut être, dans ton grand cœur, pour ma vie, Seigneur, me voici. Envoie un ange avec un charbon de feu et purifie nos lèvres et sanctifie-nous, Seigneur. Pour le dernier grand quelque chose qui se prépare à frapper la terre. Soyons une voix qui crie dans le désert du péché. Préparez-vous à rencontrer Dieu. Cette petite église, ces gens qui viennent jour après jour, conduisent des centaines de milles. Ô éternel et aimant, et n'oubliant jamais aucune action, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts et maintenant il se tient à la droite de la majesté en haut, Dieu tabernaclant dans la chair, bénis ces personnes que je bénis en ton nom. Puissent-ils toujours se souvenir et savoir qu'il y a un signe de la fin. Je prie que tu leur donnes et que tu fasses qu'ils en gagnent d'autres. À leur travail, où qu'ils se trouvent, dans les coins des rues, dans les stations-service ou ailleurs, pour témoigner à l'épicerie ou au laitier, peu importe comment, Seigneur, si quelque chose met en garde leur cœur, qu'ils soient témoins, puissent-ils vivre de telles vies pieuses et sanctifiées au point d'être des épîtres lues de tous les hommes. Dieu bénit nos femmes. Ô Dieu, je prie pour que tu les laisses se laver le visage, ceux qui ne le font pas. Prennent le maquillage de Jézabel, qu'ils aient suffisamment l'audace des chrétiens et de l'Esprit de Dieu sur eux pour savoir qu'ils ne devraient pas porter ces vêtements indécents qu'ils portent. Qu'elles laissent pousser leurs cheveux comme des dames, car il est écrit dans la Bible, Précieuse aux yeux du Seigneur est cette petite branche qui échappera à tout ce qui se produira au dernier jour. Elle sera glorieuse aux yeux de Dieu, comme le prophète l'a prédit. Dieu accorde cela. Il n'y a rien de plus que je puisse faire. J'ai crié avec ma voix, année après année, Seigneur. Et à moins que tu ne bouges maintenant, je ne peux rien faire. Je prie pour que tu le fasses. Et je sais que tu le feras, parce que tu l'as promis dans ta parole. Et voici où je me tiens. Je ne peux qu'être un témoignage, Seigneur. Et personne ne peut venir si tu ne l'attires. Et tous ceux que le Père m'a donnés viendront. J'ai cette assurance que tu prendras soin de ta parole. Bénis-nous, Seigneur. Il y en a ici qui ne font que dépendre d'une sensation. Peut-être qu'ils ont crié, peut-être qu'ils ont le Saint-Esprit, ou nous ne considérerions pas ça, Seigneur, parce que nous avons vu des gens crier au baseball, nous avons vu des gens crier à des amusements mondains, nous avons vu ceux qui étaient si heureux jusqu'à ce qu'ils pleurent par terre, dansant et toutes ces choses. Ce n'est pas ta loi, ce n'est pas toi, Dieu. Mais de te rencontrer, de te parler et que tu répondes, c'est ce que nous voulons, Seigneur. Oh, je te prie, Dieu, à cette minute même que tu envoies cet Esprit Saint dans la pièce, cet humble petit lieu. Il n'y a pas de lieu assez digne pour que tu viennes. Mais je prie, Dieu, qu'à ta manière, tu l'envoies maintenant dans la pièce, convaincre les âmes. Comme je l'ai dit il y a quelques instants, Seigneur, peut-être que tu as mis une pierre d'achoppement sur le chemin de quelqu'un à propos de ces appels à l'autel où l'on supplie et on persuade les gens à venir. Et quand on revient l'année suivante, on les trouve deux fois plus enfants de l'enfer qu'ils ne l'étaient au début. Comment peuvent-ils venir sans que tu les convainques et que le grand Saint-Esprit les convainque? Et je te prie, Seigneur Dieu, si ce pécheur, homme ou femme, garçon ou fille, est dans ce bâtiment ce matin, que le Saint-Esprit viendra avec une telle puissance de conviction au point que les larmes coulent sur leurs joues et dégoulinent dans leur âme, Seigneur, que du fond de leur cœur, ils croiront et accepteront Christ. Accorde-le, Seigneur. Ils n'auront pas besoin d'autel. Leur âme sera leur autel. Accorde-le, Seigneur. Puissent-ils venir à toi et dire, « Je veux maintenant être baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de mes péchés dont je me suis repenti. » Accorde-le, Seigneur. Remplis-les du Saint-Esprit. Donne-nous des évangélistes dans le monde aujourd'hui, pas ceux qui se persuadent et tirent et font des enfants dénominationnels. Dieu, suscite-toi des enfants. Amène les gens à prier, Seigneur. Je pense à la maison de Cornelius. Cela n'était jamais arrivé à un gentil auparavant, mais il jeûnait et priait. Et quand cet homme de Dieu, ce prophète, se tenait là, et pendant qu'il prononçait ses paroles, le Saint-Esprit tomba sur eux qui entendaient la parole. Dieu accorde ce genre de réunion. Pendant que Pierre prononçait ses paroles, oh Dieu, ils étaient prêts. Ils jeûnaient. Ils attendaient, ils étaient sincères, ils n'étaient pas seulement là à attendre, ils attendaient jusqu'à ce que ces apôtres attendaient que Dieu descende parmi eux et ils pouvaient le voir et lui parler. Ils sont sortis avec des cœurs pour enflammer le monde. Ils étaient audacieux, ils se tenaient au milieu de ces endroits où cela pouvait signifier pour eux de se faire couper la tête. Ils dirent, « Est-ce que c'est bien pour nous de vous écouter, ou vos organisations, ou vous, hommes dénominationnels, ou devons-nous écouter Dieu? » Voyez-vous, et dès qu'ils furent relâchés, ils allèrent de l'avant et prêchèrent de nouveau le nom de Jésus-Christ. Ô Dieu, donne-nous ceux-là, Seigneur. Suscite celui dont tu nous parles dans les Écritures. Oins-le, Seigneur. Je crie pour qu'il vienne. Envoie-le, Seigneur. Ô Dieu, nos cœurs affamés crient. Envoie-le, Seigneur. Celui qui ramènera le peuple à la foi des pères, celui qui les éloignera de ces marionnettes dénominationnelles pour entrer dans une expérience réelle avec Dieu, comme ils l'ont fait à la Pentecôte, une vraie église de nouveau brûlant avec le même message, la même foi, la même doctrine, la même Bible, le même Dieu avec le même signe. Suscite-nous un prophète, Seigneur. Guéris les malades au milieu de nous aujourd'hui, Seigneur. Il y a ceux ici qui sont dans le besoin. Je prie pour eux, Père. J'ai pris tellement de temps ce matin. Il y a ceux qui sont installés ici. Une nuit, alors que l'apôtre Paul prêchait toute la nuit, Un jeune homme est tombé du bâtiment et s'est tué. Il s'est endormi. Il ne voulait pas faire ça, mais il s'est endormi. Il est tombé, il a perdu la vie. Et l'apôtre a prié et la vie est revenue en lui. Ô Seigneur Dieu, il y en a beaucoup ici qui sont tombés dans la maladie. Et pendant que nous avons depuis longtemps dépassé le moment de renvoyer l'Église, il y a ceux qui sont malades. Ô Dieu, laisse cette puissance, cet Esprit Saint qui vient personnellement dans une colonne de feu, qui se déclare et se fait connaître tel qu'il est et tel que nous le croyons. Laisse-le encercler chaque personne ici aujourd'hui. Guérir les malades. Remplis avec l'Esprit. Donne la délivrance de toutes les manières que nous en avons besoin, Seigneur. Sature nos cœurs avec de la foi. Dieu, avec une foi qui ne peut mourir, avec une foi sans compromis que nous avons, l'ainsi dit le Seigneur. Accorde-le, Seigneur. C'est ton peuple, ton message, ta parole, tes serviteurs. Et le diable n'a aucune prise sur nous. Il ne peut même pas nous détruire quand ce tabernacle est détruit. Car si ce tabernacle terrestre est détruit, nous en avons déjà un qui nous attend. Il ne peut nous faire aucun mal, car tout ce qui est notre ennemi est ton ennemi, car nous sommes à toi. Nous sommes rachetés avec un prix, celui du précieux sang de Jésus. Par conséquent, vous les démons qui avez lié ces gens avec la maladie, je vous charge au nom de Jésus-Christ de sortir de chacun d'eux. En tant que serviteur de Dieu, réclamant que cette parole est la vérité, quittez-les. Vous n'avez aucun droit. Tout ce que vous avez prétendu avoir a été annulé au calvaire. Et vous ne pouvez pas les retenir plus longtemps. Maintenant, Dieu donne à chaque homme, chaque femme, garçon ou fille, la foi de croire cela. La parole a été prononcée. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi et ne doute pas dans ton cœur, la prière de la foi sauve les malades. Vous avez ce que vous avez demandé. Nous le savons. Nous avons cette confiance en Dieu. Et si nous avons une foi quelconque, si Dieu vit en nous, nous croyons cela. Et je sais que c'est ainsi, Seigneur. Alors accorde-le aujourd'hui pour la maladie et le salut. Ou j'ai dû dire, ou aurais dû dire, le salut d'abord, puis la maladie. Accorde-le, Seigneur, parce que l'âme a plus de valeur que le corps. Mais ceux qui, parfois, leur âme est sauvée, et ce vieux corps appartient toujours à Satan, et il sait qu'il le prendra à la fin des temps, il va l'écraser et le renvoyer. Les insectes de la terre ramperont dedans et le dévoreront. Mais il ne touchera jamais à cette âme, car c'est le précieux trésor de Dieu. Et à travers cette vie, comme sur une feuille, elle revient à Dieu qui la donne. Elle reviendra dans la prochaine saison avec un nouveau corps que Satan ne pourra jamais toucher, ni la vieillesse, ni rien d'autre ne peut le toucher. Ce sera un corps glorifié. Nous attendons à cela. Seigneur, bénis ton peuple maintenant. Ils sont à toi et je te les remets dans ta main. Je te le demande au nom de Jésus. Amen.
I say unto thee, for I have walked among thee, and have come this morning to surely bring the sign that shall be to this generation. For I say unto thee, these words which thou hast listened to, has it not been well said unto thee to give ear to these things which thou hast heard? Truly I say unto thee, my servant, yea, I have given great diligence in my spirit to come unto thee for this occasion. And because of this, thou hast set in motion, according to my spirit, the beginning of those things which thou hast spoken about. Glory. Truly I say unto thee this day, ye people, yea, I say, give diligence to these things, and gird thyself under my truth. For I say that the impending things that are now taken place shall increase, and the spirit of destruction and madness shall surely take thee unawares. Yea, I say, give heed this morning, for mine invitation is to whosoever will. Yea, I say, look unto this word which thou hast heard this morning, and believe the sign which is brought into thy presence,
For I am the Lord thy God that speaketh unto thee. Hallelujah.
Pray.
I speak unto thee, my prophet, this morning. I say thou hast well broken my bread of life. And I say unto thee, I have cleaned thou heart. Thou art in a time of need, because thou needs a leading of thy spirit in this day and hour never before, saith the Lord. And I say, my sheep are wandering about in the world, but I say I have ordained thee from the foundation of the world to control. Ask me to my lost sheep of Israel, for they require time, and I have given thee that time. I say unto thee, my people, that time is within thy midst this morning. Thou must take heed of the word, for I say my servant broke the word of life, the way that I would have it to, for I have anointed it in this place, for this purpose, saith the Lord.
Ce n'est pas ma parole, c'est sa parole. Oh, ce dont nous avons besoin, cette heure où nous vivons. Ne comprenez-vous pas, mes amis, que Dieu ne vient pas aux grandes célébrités? Il habite parmi les humbles, les petits, les humbles. Vous ne réalisez peut-être pas ce qui se passe en ce moment, ce qui se passe dans ce bâtiment, ce qui se passe maintenant même au milieu de ces gens. Pourquoi l'Esprit a-t-il dit très tôt, avant que je ne leur fasse quelque chose, bien que frère Higginbottom, surveillez ce message, car je l'ai apporté, quelque chose d'autre comme ça, pour vous avertir de cette chose qui s'en vient. Regardez ce qui est arrivé. Certaines choses, les Écritures que j'avais écrites ici, je ne les ai même jamais touchées et je suis allé les enlever. J'ai été conduit là par le Saint-Esprit. Certaines des Écritures, je n'y ai même jamais touché. Je suis juste allé vers autre chose tout à fait. De temps en temps, en attendant quelque chose venir, j'ai changé de direction et trouvé où il était. L'Esprit parlant dans toutes les directions maintenant. Oh, les gens, soyez honnêtes, soyez sincères, n'essayez pas de reposer. Voyez, vous cherchez pour quelque chose de grand et de brillant. Quand tous les prophètes, même David, dirent, à l'avènement du Seigneur, toute montagne serait abaissée, les hauts lieux seraient élevés, les montagnes sauteraient comme des petits béliers et toutes les feuilles applaudiraient. Eh bien, que pensaient les gens quand Jésus est venu? Qu'est-ce qui s'est avéré être? Un vieux prédicateur humble qui n'avait aucune éducation. À 9 ans, il est allé dans le désert, non pour être formé par l'homme, mais pour être formé de Dieu. Il sortit et se tenait avec un morceau de peau de mouton enroulé autour de lui, avec de la laine sur tout son visage, poilu partout et des cheveux qui pendaient dans son cou, vivant dans le désert en mangeant des sauterelles, ces sauterelles sauvages et le miel. Et quand il vivait dans le désert et se tenant debout dans la boue sur les rives et proclamant la venue du Messie, et le Messie a marché et est arrivé là, un homme ordinaire parmi le peuple, et a été baptisé. Et tous les prophètes ont déclaré que c'était l'une des plus grandes choses qui soit jamais arrivée, et c'était le cas. Ils cherchent quelque chose qui arrivera de grand et de brillant, voyez. Le Saint-Esprit ne brille pas, il reluit. Briller est du monde, reluire est de Dieu. Reluis sur moi, Seigneur. C'est ma prière. Humilie-moi, prends-moi, moule-moi et façonne-moi. Viens, Esprit du Dieu vivant, viens et coule en moi. Moule-moi, façonne-moi, mets de moi. Fais de moi l'un des tiens, Seigneur. Prends-moi. Je suis tout aussi conscient que l'Esprit de Christ se déplace dans ce bâtiment ici ce matin. Le Dieu qui jugera le monde est ici maintenant, tout aussi certain que je suis devant cette chair. Il y en a une, deux, trois confirmations de cela, de la parole, exactement ce que la Bible avait dit. L'avez-vous entendu arrêter de parler à ce moment-là, après cela? Un, deux, trois, tout dans l'ordre spirituel, tout dans l'ordre scriptural. Oh, ouvrez vos cœurs et comprenez. Oh, un tel moment, qu'est-ce qui pourrait arriver en ce moment? Ils étaient dans une chambre haute, tous d'un même accord, attendant, car ceux qui s'attendent au Seigneur renouvelleront leur force. Ils s'élèveront comme des aigles avec les aigles. N'allez pas simplement là-haut et dites, « Seigneur, je suis désolé, mes péchés, maintenant j'accepte par la foi que j'ai le Saint-Esprit et vous éloignez. » Ceux qui s'attendent au Seigneur des semaines, des jours, peu importe, renouvelleront leur force. Ils monteront avec les aigles, les ailes d'un aigle. Ils courront sans se lasser. S'ils marchent, ils ne s'évanouiront pas. Enseigne-moi, Seigneur, la patience, s'attendre au Seigneur, jour et nuit, constamment. Anne était dans le temple, priant constamment, jour et nuit. Quand ils ont amené Jésus, elle est entrée aveugle dans le bâtiment. Elle s'est déplacée. Une femme aveugle a mis ses mains sur lui et a béni Dieu. Parce que dans son aveuglement physique, dans son esprit, elle a été conduite par l'esprit jusqu'à l'endroit où il se tenait. Là, Siméon l'attendant de retour dans la salle de prière là-bas, savait qu'il avait une promesse par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas, un vieil homme, presque 90 ans. Et il a dit aux gens ouvertement, « Je ne verrai pas la mort avant d'avoir vu le Messie. » Et il a la même minute, un petit bébé, qu'était-il? Pas une célébrité avec tous les gardes qui se tenaient là au garde-à-vous quand il amènerait le Messie, enveloppé, vraiment bien gentil, joli, épicé et parfumé comme des petits bébés qui viennent pour être consacrés. Mais une petite mère dont on disait du mal, 10 ans, elle a eu un bébé hors du mariage. Enveloppé de linge, de joug de bœuf, enroulé autour de lui, marchant dans le bâtiment, et tout le monde gardant sa distance de lui. Mais voici ce petit groupe, Anne, pour un, Siméon, un autre, marchant à travers la ligne, ne sachant pas quand ses yeux le croiseraient, et levant les mains, il dit, « Seigneur, que ton serviteur parte maintenant en paix, selon ta parole, car mes yeux contemplent ton salut. » Voyez, rien de grand, brillant, une lueur, et bien qu'on en parlait en mal, c'était un signe. Et aujourd'hui, on parle en mal du signe, il n'y a pas de coopération, on parle en mal et on le surnomme tout, mais c'est un signe que l'on néglige, un signe dont on parle en mal, la Bible en parle, un signe dont on parle en mal. Souvenons-nous de cela alors que nous rentrons chez nous. Ne laissez jamais ce message mourir dans vos cœurs. Quoi que vous fassiez, ne le faites pas. Méditez sur ceci jour et nuit. Priez jour et nuit pour que Dieu suscite son témoin maintenant. Nous sommes prêts, car je crois que bientôt, il n'y aura plus de temps. Nous sommes arrivés. Comment, quand elle sera, Frère Branham, je ne sais pas, peut-être aujourd'hui, ce sera peut-être demain. S'il ne sait pas aujourd'hui, je m'y attendrai demain. Et ce sera peut-être cette année, l'année prochaine, dans 10 ans, peut-être dans 30 ans, je ne sais pas quand ce sera. Mais je dis, à partir de maintenant, soyez prêts à chaque minute. Et ne prenez pas cela seulement comme quelque chose d'ordinaire. Ne faites pas ça. Ne vous reposez pas jour et nuit jusqu'à ce que vous ayez parlé à Dieu. Gardez-vous du fanatisme. Ne vous énervez pas dans l'émotion. Ne faites pas ça. C'est ce qui apporte tant de choses radicales et fait peur aux gens. Voyez, c'est à cause du fanatisme radical. N'acceptez pas ça. Pas du tout. Restez juste là jusqu'à ce que vous parliez à Dieu. Après tout, c'est votre âme et vous êtes celui qui va passer l'éternité là-bas. Et assurez-vous de ne pas juste serrer la main, que vous ne dites pas un credo et que vous n'acceptez rien par la foi. Ne faites pas ça. Parlez à Dieu. Laissez Dieu vous parler. Regardez ce qui vous arrive. Regardez vos désirs et ce qui se passe. Alors vous saurez si vous avez parlé à Dieu ou non. À vous qui avez cru en lui ce matin, pour vous et moi, j'ai dit au sujet des appels à l'autel, savez-vous comment il faisait dans la Bible? Tous ceux qui ont cru au Seigneur, tous ceux qui ont cru au Seigneur furent baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de leurs péchés. Si vous n'avez jamais, nous n'avons jamais eu d'appel à l'autel, ils n'ont jamais eu de gens qui ont été. Quand vous faites cela, vous obtenez tout. Voici un gars qui monte à l'autel d'un air arrogant, il s'agenouille parce que quelqu'un a essayé de le convaincre. Voyez-vous, vous avez deux fois plus de mal à le ramener encore, voyez? Et qu'est-ce que vous faites? Vous obtenez tout ce qu'il y a dedans. Et Jésus a dit, tous ceux que le Père m'a donné viendront à moi. Restez avec cette parole, Dieu fera le reste. C'est vrai, Dieu fera le reste. Que Dieu vous bénisse. J'espère vous revoir ce soir, j'espère chacun de vous le pourra. Je sais que beaucoup d'entre vous doivent rester au loin. Je serai là ce soir pour entendre mon frère. Si ce serait la volonté de Dieu, je ne veux pas prendre ces deux messages. Et Frère Neville est un homme de Dieu doux, et je sais que Quand je l'entends prêcher, je sais que ça vient directement de son cœur. Je le sais. Et Frère Neville, comme il l'a dit l'autre soir, ce commentaire, il a dit, j'ai fait une remarque. Un jour, je l'ai baptisé au nom de Jésus. Je l'ai fait. Pourquoi? J'ai vu la sincérité et l'honnêteté en lui. Je savais qu'il pourrait lui être donné. Il pouvait vraiment le voir. Ses yeux s'ouvriraient. Il le recevrait. J'ai attendu. J'ai dit à l'Église, ne vous inquiétez pas. Ce prédicateur méthodiste ira bien. Il est ici aujourd'hui, pasteur du tabernacle, aussi solide dans l'œuvre qu'il peut l'être dans le message qu'il croit Dieu. Je sais quand j'entends quelque chose de Frère Neville, je sais que c'est authentique, venant de Dieu, parce qu'il est ce genre d'homme. J'ai posé mes mains sur vos mouchoirs ici. Sur lesquels on a prié, confiant que chacun de vous a reçu une bénédiction de Dieu. J'ai confiance que Dieu est sur votre cœur. Nous ne venons pas ici pour obtenir une bénédiction de Dieu quand nous venons ici. Chaque jour que nous prenons une respiration, nous recevons une bénédiction de Dieu. Ce que nous venons faire ici, c'est recevoir une correction pour couper, pour circoncire nos cœurs, pour nous placer devant Dieu et pour croire Dieu de tout notre cœur. Souvenez-vous de la parole du Seigneur et n'oubliez pas et ne manquez pas de regarder et voir un vrai signe envoyé de Dieu. Et puis, je vais remettre la réunion à Frère Neville et je vais laisser dire ce qu'il veut bien dire. Je suis certainement, je vous le dis, je sais que Dieu a confirmé que nous attendions dans la première réunion. Alors que je regarde ces nombreux visages ce matin, je sais que cela a été une bonne chose que vous soyez ici. Et cela a été bon aussi pour moi. Et j'étais censé être ici, et vous étiez censé être ici. Votre mission a été correctement accomplie si vous l'estimez comme telle. Ce que vous avez ce matin, vous pouvez l'avoir parce que vous l'avez reçu de Dieu. Et suite à ceci, nous avons immédiatement un service de baptême, et Frère Willard Collins officiera dans le service de baptême, et nous avons deux candidats ou plus, et nous aimerions voir une centaine de candidats au baptême au nom de Jésus-Christ ce matin. Amen. Déterminé à afficher votre foi d'une manière manifeste, la foi n'est jamais un travail. La foi dont on ne fait que parler n'est pas bonne, mais la foi démontrée est l'ordre de la Bible. Par l'obéissance, la foi peut être démontrée. Que Dieu accorde à quiconque ce matin qui est ici, qui se sent disposé à le faire, que vous veniez. Si c'est un peu hors de votre ordre, de ce que vous aviez prévu, ou peut-être que vous aviez un rendez-vous immédiatement à faire ou quelque chose, si vous pouvez vous permettre de retarder cela et de passer à l'acte d'obéissance, je crois en tant que votre humble frère en Christ et en tant que votre co-ouvrier avec le prophète de Dieu, je crois que ce serait votre meilleur choix de prendre cette décision maintenant. Que Dieu l'accorde et accorde que vous veniez et preniez votre place parmi les autres qui seront baptisés afin que vous soyez comptés dans ce nombre, que vous joigniez le petit troupeau. Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas, d'être l'un des siens et d'être selon sa parole. Levons-nous tous ensemble comme nous terminions la réunion. Dimanche prochain, Frère Branham sera de retour avec nous. Rappelons-nous de cette annonce. Il a dit qu'il serait ici ce soir, mais il n'a pas dit qu'il prêcherait. Toutefois, mon désir est toujours qu'il prêche. Il n'a pas besoin de craindre ma position à ce sujet. Mon désir est très certainement, sachant que le message et l'appel, l'office qu'il a, est un grand besoin de ces derniers jours. Je donne la place n'importe quand, je vais le dire en présence des gens et de lui. Je donne volontiers place n'importe quand, dans n'importe quelle réunion, pour ce message important que je crois, parce que Dieu a parlé à travers deux d'entre nous ce matin, confirmant le signe de ceci. Et je suis ravi d'avoir le privilège de pouvoir en être un qui puisse lui donner sa place. Et je voudrais ce soir, je serais heureux si notre frère et le serviteur de Dieu et prophète était disposé à le faire. Je lui donnerai volontiers la place, juste seulement à sa parole, tout ce qu'il ressent, mais il a parlé et nous laisserons simplement la conclusion de tout entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Vous ne pourriez pas demander quelque chose de plus doux, priez-vous d'un vrai frère? La raison pour laquelle, vous voyez, mes amis, je sais que vous m'aimez. Vous aimez Frère Neville, vous aimez tout le peuple de Dieu. Nous nous aimons les uns les autres. S'il y a un temps où nous devrions nous aimer davantage les uns les autres, c'est aujourd'hui. Nous devrions être si proches, frères, que nous serions plus que des vrais frères et sœurs. C'est l'amour qui devrait être dans nos cœurs, les uns pour les autres, le plus haut niveau de révérence et de respect. Et j'aime ça, j'aime cette chose réelle. Et ici, Frère Neville et Frère Higginbottom, frère, je crois que c'était Frère Funk. Je ne lui ressemblais même pas qui a donné ce message qui est venu. Ce message vient de Dieu, mes amis. Oui, vraiment. Quiconque a du discernement spirituel le sait. Mais voici ce que c'est. En venant, j'aime tellement Frère Neville que je pense ceci, voyez-vous. Je n'aime pas dire rien à moins que j'ai vraiment quelque chose de Dieu à vous dire, voyez. J'ai eu ceci, cela est venu sur mon cœur il y a 2 ou 3 jours. Je n'ai pas eu l'occasion de regarder beaucoup avant la nuit dernière. J'ai lu quelques écritures. C'est la raison pour laquelle je suis venu le prêcher. Ce n'est plus dans mes mains maintenant, voyez. Quoi que vous fassiez, c'est fini, je serai pour vous, voyez. Mais ce n'est plus dans mes mains. Mais Frère Neville et moi, nous sommes juste comme ça. Je viens ici juste pour parler un jour quelque chose comme ça et que Frère Neville avait un message de Dieu, je m'assoirais. Oui, en effet, je donnerais la place au message de Dieu toujours. C'est comme ça que nous nous faisons l'un pour l'autre. C'est la raison pour laquelle je dis que je vais, si Dieu ne me donne rien, alors peut-être juste pour parler. Et si Dieu donne quelque chose à Frère Neville et je suis ici à la chaire dimanche matin, dimanche la nuit, chaque fois que c'est le cas, Frère Neville serait juste, il serait vraiment un vrai. Il viendrait à moi, dit Frère Branham, je crois que tu es le serviteur du jeu, mais le Seigneur vient de me donner un message. Tu ferais ça, n'est-ce pas? Oui, monsieur, je lui ferais la même chose. S'il voulait parler, je dirais, Frère Neville, tu vas m'excuser. Dieu m'a donné un message, je dois le dire aux gens maintenant. Et lui, Frère Neville, céderait sa place l'un ou l'autre de nous pour l'un ou l'autre. Vous voyez, c'est comme ça que nous faisons. Et si je n'ai pas de quoi ce soit, j'aime vraiment l'entendre prêcher. Je l'ai entendu, combien l'ont entendu dimanche soir dernier? Un message si merveilleux, je vous l'ai dit, ça se rattache à ce qui a été dit dans la matinée. Et les gens, je vous le dis, vous avez assez de la parole de Dieu pour que vous devriez vivre correctement et être en ordre. Que Dieu vous bénisse maintenant, Frère Neville.